Salut à tous. L'émission de ce soir, elle est importante parce que c'est une émission de clarification et d'approfondissement. Fin décembre, on a produit une gazette radicale qui portait sur l'articulation dialectique de la déliquescence 2024-2025. On avait donc posé la mise en perspective du retournement dialectique qui mettait en perspective l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. Et la Gazette de février a commencé à positionner les axes stratégiques autour de l'auto-présupposition historique qui est posée déjà depuis des années et des années, rapallo ou pas rapallo, rapallo ou contre-rapallo. Et ça nous oblige à partir de là à positionner le concept d'état profond et le concept de décomposition de l'état profond. En préalable, il faut expliquer que notre regard, notre analyse, est dialectique. Alors beaucoup s'interrogent sur dialectique parce qu'ils n'ont pas forcément travaillé à la fois les présocratiques, Hegel, le dépassement de Kant, le surgissement de Feuerbach, le renversement de Fichte, de Schelling par Hegel, puis la grande synthèse de l'auto-dépassement révolutionnaire de la philosophie dans l'auto-négation révolutionnaire du prolétariat par le groupe Marx-Engels. Mais il faut toujours en revenir à dialectique et à logos. Il y a une dialectique qui est fausse et il y a un logos qui est faux. C'est ce qu'a mis en perspective la philosophie classique, qui considère que la dialectique, c'est l'art du raisonnement et que le logos, c'est la raison qui permet de raisonner. Hegel, reprenant les présocratiques, montre que cette dialectique-là, qui n'est pas révolutionnaire, et d'ailleurs tous ceux qui s'en réclament dans la longue histoire, aboutissent toujours à justifier une politique ou une économie. C'est précisément parce que la dialectique de Hegel est révolutionnaire que, renversée révolutionnairement par Marx et par Engels, elle va produire la perspective communiste. Autrement dit, le logos, la dialectique, c'est pas un raisonnement particulièrement pertinent qui est posé sur le monde, c'est le mouvement réel du monde qui se réfléchit en nous. Donc, notre raisonnement est l'accueillement de la raison du monde. Notre logos est radical et révolutionnaire parce qu'il est la réception du mouvement du logos du monde dans son grand devenir révolutionnaire. Et c'est là où Hegel et le groupe Marx-Engels abolissent Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, tous les penseurs qui plaquent sur le monde la lubie névrotique de leur angoisse narcissique. La dialectique révolutionnaire, le logos révolutionnaire, est le mouvement impersonnel de la rationalité du monde qui se révèle à l'homme dans une pratique révolutionnaire de méthode et de transformation sociale. Thèse sur Feuerbach, science de la logique, idéologie allemande. Donc, ce qu'on va dire ce soir, on ne le sort pas de notre chapeau. Ce que l'on va dire ce soir, on ne le sort pas d'une analyse pertinente parce qu'on aurait créé un système de perception et d'appréciation de la logique du monde. C'est simplement la réalité objective, ce que le groupe Marx et Engels appelle le mouvement réel, le mouvement réel. Et cette dialectique-là est révolutionnaire parce qu'elle est le vrai logos, parce qu'elle est la vraie dialectique, parce qu'elle ne vise pas à refonder l'économie politique, elle ne vise pas à créer un autre État, une autre administration de la valeur d'échange, mais c'est le surgissement révolutionnaire qui abolit la politique, qui abolit l'économie et qui, dans la perspective du manifeste communiste, ouvre la voie à la Gemeinwesen, c'est-à-dire la voie à l'émancipation humaine totale et définitive. Ce cadre méthodologique, qui n'est donc pas plaqué sur le monde, mais qui est la réception du devenir du monde lui-même, il positionne l'analyse de l'État. L'analyse de l'État. Et l'analyse de l'État, elle est posée bien évidemment d'une manière très approfondie comme concept historique total dans le livre 1, section 1 du Capital, sur le fétichisme de la marchandise et son secret. Et son secret. La valeur d'échange, elle a un hiéroglyphe qui est son secret. Et l'État, qui est toujours l'état du devenir de la dialectique des forces productives, a lui aussi un secret. Marx dit, dans le fameux passage sur le fétichisme de la marchandise, la réalité ne porte pas sur son front la réalité de ce qu'elle est en réalité. Il y a donc quelque part entre la réalité telle qu'elle est en profondeur et la réalité telle qu'elle se donne à voir, un hiatus, une dichotomie, puisqu'il y a précisément l'aliénation, donc le fétichisme de la marchandise, qui, retour au manuscrit de 44, est l'inversion, le renversement et la dénaturation. Toute vérité s'inscrit en négatif des apparences, et donc c'est là que nous posons la réalité de l'État en vérité contre toutes ces apparences. Dans les citations que nous avons mises dans le déroulé de cette émission, il y a une citation importante qui est d'ailleurs issue du manifeste. C'est la phrase par laquelle Marx dit que l'État est le comité de direction de la bourgeoisie. Ça, c'est en domination formelle. En domination réelle, il est le comité de direction de la classe capitaliste, puisque la classe capitaliste s'est substituée à la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie n'a pas d'autonomie, elle n'a pas de scénario autonome. La classe capitaliste n'a pas de scénario autonome, elle n'a pas d'autonomie. Et l'État n'a pas d'autonomie. L'État, tout au long de l'histoire de la dialectique des forces productives, bouge, transmute, se métamorphose, se redéfinit, se déploie autrement. Et il y a donc une histoire de l'État, l'État des Francaliens qui vont poser la monarchie de Clovis. Ce n'est pas celui de Saint-Louis, ce n'est pas celui de Philippe le Bel, ce n'est pas celui de Louis XIV, ce n'est pas celui de Louis XVI, ce n'est pas celui de Mac Mahon, ce n'est pas celui de Clémenceau, ce n'est pas celui de Paul Reynaud, ce n'est pas celui de Gaulle et ce n'est pas celui de Macron. L'État bouge, et l'État bouge parce qu'il est l'expression des tensions dialectiques. Et j'insiste sur dialectique. Dialectique, c'est un mot qui revient en permanence chez Marx et qui revient en permanence chez Hegel, parce que qu'est-ce que la dialectique? C'est le mouvement réel, c'est le mouvement réel, c'est le logos objectif de l'histoire qui fait le travail du dia en mouvement. Le dia, c'est la traversée. Donc la dialectique des forces productives, c'est le mouvement historique qui traverse la totalité de l'histoire de l'espèce humaine et qui fait que, en fonction du seuil, le fameux seuil qui est défini dans l'introduction à l'économie politique de 1857, le seuil, c'est ce qui définit une époque, c'est ce qui définit un moment, c'est ce qui définit une formation sociale, c'est ce qui définit le devenir d'une classe et c'est ce qui définit le devenir de l'État. Et l'État, il est le produit dans la domination réelle de la marchandise, de ce fameux hiéroglyphe, du fétichisme de la marchandise et de son secret. Et il reprend tout l'arc historique de l'État dans une complexité supérieure, dans une complexité supérieure. Alors la complexité, c'est ce qui permet de discerner un mouvement spécifique qui est le surgissement de l'État profond. L'État profond, ça n'a rien à voir avec la vulgate empirique ou avec la vulgate écumière des géopolitiques de surface. L'État profond, c'est pas en souterrain des groupes, des cercles qui manipulent et qui diffusent. Bilderberg, Davos, tout ça, c'est copieusement à la mode depuis des années, mais ça ne décide de rien. C'est une partie de l'État profond qui agence les décisions de l'État invisible et qui les fait passer dans l'État visible. Et c'est là où, à travers Marx, à travers Bordiga, à travers les travaux de Debord, on peut positionner la dialectique de l'État. L'État, comme unité substantielle du devenir historique et en particulier de la valeur d'échange, a trois dimensions. Il a une première dimension, c'est l'État visible. L'État visible, c'est l'ordre de l'apparence phénoménale. C'est ce que l'État administre dans le spectacle de la marchandise comme le cours des choses regardables. Il y a un cours des choses regardables qui, dans le spectacle de la marchandise, se donne à voir. C'est le jeu de l'État visible. Mais l'État visible ne décide de rien. L'état visible, il actualise les commandements, les impératifs de l'état profond. Et l'état profond, lui, ne travaille pas sur la phénoménalité du regardable, il travaille sur la phénoménalité des limites de l'inracontable. De l'inracontable. On y reviendra tout à l'heure, le meurtre d'Aldo Moro, c'est une phénoménalité des limites de l'inracontable. Entre la manière dont l'état visible va raconter le meurtre d'Aldo Moro et la manière dont l'état profond a activé le meurtre d'Aldo Moro, on passe dans les médiations du hiéroglyphe du fétichisme de la marchandise et de son secret, des limites inracontables d'une phénoménalité profonde, au cours des choses regardables, d'une phénoménalité visible, mais qui dit le faux omniprésent. Et contrairement à ce que pourrait nous laisser croire une analyse de surface, l'état profond ne décide de rien. L'état profond actualise les nécessités objectives de la dialectique du temps social généralisé qui est unifié par le mouvement des autoprésuppositions de la valeur d'échange. Autrement dit, au moment du meurtre d'Aldo Moro, il y a le regardable du spectacle de la marchandise qui produit l'omniprésence du faux. Aldo Moro a été tué par les brigades rouges. Il a été tué par les brigades rouges, sauf que si j'entre dans la dialectique de l'état profond, les brigades rouges sont les brigades rouges de l'état italien et de l'OTAN. Là, je glisse du regardable à l'inracontable, et il y a bien des réseaux, des unités de commandement de la valeur d'échange qui travaillent dans le cadre de l'état profond, parce que l'OTAN, à un moment donné, doit liquider Aldo Moro, dont la stratégie politique et géopolitique remet en cause l'impérialisme de l'OTAN dans la péninsule italienne. Mais contrairement à une vision donc de surface complotiste Bennett, l'état profond n'a pas décidé d'assassiner Aldo Moro dans une articulation clandestine souterraine. Il n'a fait que mettre en forme, actualiser le commandement de l'état invisible qui est une immanence, qui est l'immanence de la loi de développement de dialectique des forces productives du capital, c'est-à-dire l'immanence de la valeur d'échange en mouvement dans toutes les autoprésuppositions de sa contradiction, et en particulier de sa loi la plus importante, qui est la baisse du taux de profit. On n'a pas assassiné Aldo Moro à n'importe quel moment. On l'a assassiné dans le cadre d'une recomposition italienne, à la fois sur les luttes sociales et sur la géopolitique impérialiste de l'OTAN. Donc, c'est l'état invisible de la valeur d'échange qui met en marche la nécessité de liquider Aldo Moro, et l'état profond, c'est les larbins de la marchandise. C'est les laquais qui ouvrent les portes et qui les ferment. C'est l'actualisation. Alors, la pensée de surface, elle va vous expliquer que Davos, Claude Schwab, Bilderberg, tous ces groupes-là décident en profondeur. Mais pourquoi ils vont vous dire qu'ils décident en profondeur? Parce que ceux qui font la critique de l'état profond sous cette forme superficielle et phénoménale ne sont pas dans une relation dialectique révolutionnaire à la critique du fétichisme de la marchandise pour abolir l'État, pour abolir la politique et pour abolir l'économie. Donc ils veulent, dans leur représentation à la fois étriquée et complètement à contresens de la réalité, chasser les gens de l'état profond pour prendre leur place dans une gestion politique et économique transformée. Il y a un état profond qui a imposé la loi de 73. L'économie est bousillée par les banques et par la finance. Nettoyons l'état profond, liquidons l'état profond et mettons en marche une démocratie transparente. C'est une histoire pour enfants, c'est un conte complètement débile. Parce que justement, ce que nous apprend Marx, si on théorise la profondeur méthodologique de la dialectique des forces productives, c'est que l'état profond ne décide de rien, il est cette médiation, il est ce lieu de passage, il est ce lieu de passage par lequel l'état invisible s'organise une médiation décisionnelle, mais décisionnelle en tant que chambre d'enregistrement, en tant que chambre d'enregistrement. Donc, ce qui est décisif, c'est de comprendre cette objectivité-là. C'est pareil pour le massacre de Bologne, quand la gare explose. C'est pareil pour le 11 septembre. C'est pareil à tous les niveaux des événements particulièrement important de l'état profond. C'est pareil pour les on a parlé des brigades rouges de l'état italien, c'est pareil pour action directe de l'OTAN et de l'état profond. Le général Audran, Besse, vont être exécutés par action directe qui n'est qu'une milice de l'état profond. Alors bien évidemment, les couillons d'action directe manipulés dans toute leur ignorance et leur bêtise crasse ont, eux, dans leur subjectivité, une intentionnalité qui leur fait croire que, mais en fin de compte, ils interviennent dans le jeu interimpérialiste de remise à niveau par l'OTAN de toute une série de configurations, parce que Besse-Audran, c'est la poursuite de l'hégémonie gaulo-pompidolienne sur l'Irak, et l'axe Tel Aviv, le Pentagone, contre le nucléaire de Saddam Hussein et contre la militarisation de l'Irak contre l'Iran, font le choix de les liquider. Mais ce n'est pas ceux qui appuient sur le bouton d'accord de la liquidation dans l'état profond français infiltré par l'OTAN qui décident stratégiquement d'éliminer Georges Besse et le général Audran. C'est l'état invisible de la valeur d'échange dans la crise de ces années-là qui recompose le conflit États-Unis-Europe, héritage de la France gaulo-pompidolienne contre l'hégémonie américaine, qui fait qu'à un moment donné, l'état profond, qui n'est qu'une médiation d'enregistrement, va organiser cette réalité. Et donc, c'est très très important pour nous ce soir, à la suite des deux dernières émissions que nous avons faites, de pousser méthodologiquement à la compréhension de ce qu'est l'état profond. Parce que, bon, les gens ont très rarement lu Hegel, ils ont très peu lu Clausewitz. Ils connaissent très peu Marx et Engels, ils n'ont pas lu l'anti-Turing, et alors pour eux, l'état profond, bah c'est ce qu'ils regardent et qu'ils consomment sur les vidéos. Alors il y a un état profond avec des financiers, avec des agencements, avec des réseaux, avec des luttes d'influence, et qui décide dans l'obscurité de ce qui va advenir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ces gens-là ne décident de rien, ce sont les laquais du capital, ces gens-là enregistrent les décisions de l'état invisible. Et c'est pour ça que on ne comprend rien à l'état profond si on ne comprend pas que l'état profond est cette médiation qui relie l'état invisible de la valeur d'échange à l'état visible du regardable, du spectaclisme de la marchandise phénoménale immédiate. Donc, le premier moment à poser est celui-là. Et donc, à partir de là, pour aider l'auditeur, on va faire un parcours historique. L'état profond atteint sa puissance maximale quand la valeur d'échange s'est totalement homogénéisée sur la planète de l'économie politique du capital. L'état profond, il a une influence maximale depuis la domination réelle supérieure parce que la valeur d'échange a liquidé toute son antériorité. Aujourd'hui, la valeur d'échange totalitaire, c'est-à-dire le pouvoir de la marchandise de l'usine globale, a définitivement liquidé toute l'antériorité capitaliste. Nous sommes dans l'usine globale de la totalité capitaliste réalisée. Le tout, c'est le capital. Le capital, c'est le tout. Donc, puisque l'état invisible de la valeur d'échange est la totalité du monde, l'état profond est la totalité de la marchandise mondiale qui s'incarne dans ces méandres qui permettent l'état visible. Alors, dire que l'état invisible a pris la totalité du monde, ça veut dire que l'état profond est dans la totalité de sa représentation capitaliste totale. Mais capitaliste total, on l'a vu depuis la domination réelle, il y a une lutte d'influence entre le capitalisme financier qui a pris le pas sur le capitalisme industriel, mais constamment, on y a insisté énormément à travers les notes sur Wagner dans la dernière émission qui nous ramenait au capital, il y a constamment, plus la crise avance, cette impossibilité pour la valeur d'échange de continuer son échappée dans le crédit chimérique. Il y a donc, au moment le plus intense de la crise de la valeur d'échange, face à la chimère de l'illusion du crédit chimérique, une autre chimère qui est celle de l'illusion d'un retour nécessaire à la valeur d'usage. Il y a donc un état profond qui est totalement capitaliste, mais qui est double, puisqu'il est l'expression d'une dialectique contradictoire entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, le capital industriel et le capital financier. Donc aujourd'hui, on a une homogénéité totale de l'état profond dans la valeur d'échange, même s'il se divise entre phase industrielle et phase financière. Mais pendant des siècles, ça n'a pas été le cas. Pendant des siècles, la valeur d'échange était en train de prendre le pouvoir sur le monde. Et elle n'a commencé à le prendre qu'en 14, avec l'émergence de la domination réelle. Et elle n'a accompli cette domination réelle que dans sa phase supérieure, avec la crise monétaire de 71, qui nous a fait basculer dans la domination réelle supérieure. Donc, de l'émergence des cités commerciales italiennes du XIIIe siècle jusqu'à 1914, il y a bien un état profond, mais un état profond qui n'a pas du tout les caractéristiques de l'état profond de la phase capitaliste totale réalisée de 14 à 71 et de 71 à 2018 avec effectivement la crise des taux négatifs. Il y a un état profond sous Louis XIV, il y a un état profond au moment de la Révolution, il y a un état profond sous l'Empire, il y a un état profond sous la Troisième République. On y reviendra tout à l'heure pour détailler les méandres, pour que l'auditeur comprenne ce qu'est justement cette dialectique des seuils qui fait que l'état de la valeur d'échange de l'état invisible n'a pas cessé de bouger et que l'état profond qui lui correspond pour positionner le spectacle du regardable phénoménal de l'état visible s'organise. Donc, on parle ce soir d'une méthode, d'un rapport social, d'une dialectique historique telle qu'elle est posée par le groupe Marx Engels. Ça ne sort pas de notre tête, parce que si ça sortait de notre tête, ça serait inintéressant. Et pour comprendre l'état profond, pour comprendre l'état actuel de la décomposition du capital, si je suis dans la tradition communiste méthodologique du groupe Marx Engels, reprenant la science de la logique dans une perspective révolutionnaire vers le manifeste communiste, je suis capable de tout comprendre et donc de prévoir. On en revient toujours à ce que nous avons dit d'émission en émission. Ce que nous disons là, ne fait que poursuivre les axes méthodologiques d'un certain nombre de groupes révolutionnaires qui, dans les années 70, dans les années 80, avaient mis en perspective de manière prévisionnelle la totalité de la géopolitique mondiale qui a vu la Russie capitaliste d'État s'effondrer et une Russie nouveau modèle surgir, tout ça dans le giron américain d'une mondialité stratégique du Pentagone qui n'a fait que poursuivre la mondialité stratégique anglaise contre la mondialité française qui a ressurgi à travers la phase gaulo-pompidolienne. Mais ce que nous disons est intéressant parce que avec humilité et méthode, ça ne parle pas de notre nombril et de notre subjectivité personnelle. Nous n'avons rien à dire à partir de nos jeux régulièrement constitués. Maurice n'a rien à dire de son jeu. Francis n'a rien à dire de son jeu. Michel n'a rien à dire de son jeu. Nous avons tout à dire à partir de notre nous, à partir de notre nous organique, historique, qui, dans la tradition communiste des groupes révolutionnaires, travaille la dialectique et prévoit les moments dialectiques à venir, le travail de prévision. Et c'est ça le vrai logos, c'est ça la vraie dialectique, parce qu'au bout, il y a effectivement la critique radicale de la politique et de l'économie. C'est-à-dire que nous, à l'inverse de tous ceux qui s'exercent à une géopolitique de surface, nous sommes à la remorque d'aucun clan capitaliste, d'aucun gang politique. À bas l'État, à bas toutes les cliques capitalistes, et c'est parce que nous mettons en distance d'un point de vue révolutionnaire, cette dialectique de l'histoire, que nous sommes capables de l'analyser avec justesse et méticulosité. Donc on va revenir sur ce que ça implique, cette analyse de l'état profond, mais elle est absolument décisive parce qu'il y a une triade, il y a une triade, état visible, état profond, état invisible, et la crise ultime du capital, la crise terminale, le procès de caducité, c'est précisément le moment où la valeur d'échange rentre dans une impossible restructuration supérieure. Mais l'impossible restructuration supérieure de la valeur d'échange, c'est l'impossible restructuration supérieure de l'état invisible à l'état profond, et c'est l'impossible restructuration supérieure de l'état profond à l'état visible. Et c'est là où on va pouvoir analyser toute la réalité objective d'aujourd'hui, c'est-à-dire la crise entre, à partir de l'état transatlantique, la crise entre Washington et Bruxelles, la réalité des réorganisations en Ukraine et la réalité des réorganisations à Gaza. Et tout se tient du point de vue de cette compréhension du fétichisme de la marchandise qui nous permet à nous de comprendre cette dialectique interactive, état visible, état profond, état visible, qui fait justement le cours objectif des auto-présuppositions de l'histoire réelle.
Non, vous avez parlé donc de l'État. Déjà, juste, je rajouterai que la compréhension de ce qui forme l'État, déjà, c'est quelque chose qui différencie dans l'histoire des groupes communistes et des groupes libertaires. Il y a une différence colossale qui est justement la compréhension profonde de ce qu'est l'État. Savoir que pour des anarchistes, la non-compréhension de ce qu'est l'État amène à une fausse pratique possible. Vous avez parlé de ce chapitre 1 où Marx effectivement parle du hiéroglyphe de la marchandise et du fait que la valeur ne porte pas sur son front ce qu'elle est. Et dans ce même chapitre, il y a le fait que la valeur d'une marchandise s'exprime dans la valeur d'usage d'une autre marchandise. Autrement dit, il y a besoin à minima de marchandises, il y a besoin d'une relation de marchandises qui implique forcément une relation humaine, donc une relation sociale. Et la marchandise, justement, c'est cette valeur, mais elle est invisible. On peut, je crois qu'il le dit pas dans ces termes, mais on peut prendre une loupe, on ne va pas voir cette convention sociale, cette relation sociale. Et pourtant, cet invisible qu'on ne voit pas va conditionner, puisque à partir du moment où va apparaître l'échange, va développer ce que va engendrer l'échange. Et c'est cet invisible qui est toujours présent et qui va donner cet état invisible de plus en plus prégnant qui, comme vous l'avez dit, va influer l'état profond et l'état visible. Mais avant l'arrivée de cet échange, donc qui donne l'argent, qui donne la marchandise, l'argent, l'économie, le mode de production capitaliste, l'être humain, il produit directement l'être humain. Il a un but, c'est de produire l'être humain dans tous les aspects de sa vie, de produire, de reproduire l'être humain. Il a des moyens humains, des moyens directs. Et l'arrivée de cette valeur d'échange, elle contient en elle quelque chose qui va, une contradiction qui va se devenir, c'est qu'il va y avoir une inversion entre le but et les moyens. C'est-à-dire que à partir du moment où on va passer par la médiation de l'échange qui va donner l'économie, l'homme qui va passer par le moyen de l'économie produire sa destination humaine, l'économie qui est un moyen va devenir le but. L'homme va se mettre à produire pour des besoins solvable, mesurable, quantifiable. Et le but initial qui était de produire des êtres humains, l'homme va devenir un moyen pour l'économie de produire du profit, de produire ce qui va donner l'état invisible. Et pourquoi je prends ce petit préalable? C'est pour revenir à ce qui s'est passé dernièrement lors des élections aux États-Unis, mais on reviendra, vous l'avez dit, en arrière, mais c'est pour insister, donner un exemple. On a donc cette inversion entre le but et le moyen, où le moyen devient le but devient le moyen, qui fait qu'on a une composition organique, donc du travail mort, machinique, qui a pour origine un travail vivant, et il y a cette contradiction où il doit se nourrir, du travail, du travail vivant, de ce qui le fait naître. Donc pour vivre, il doit détruire ce qui le fait exister. Donc ça, on l'a déjà dit, il doit couper la branche sur laquelle il est assis. Et comment ça se manifeste, cette nécessité? Donc là, je fais au plus simple pour parler de cette composition organique, qui est le résultat de l'état invisible. Et j'ai parlé des élections américaines. Eh bien, au bout d'un moment, cette destruction, ce travail mort qui a une influence sur la vie des hommes, mais notamment aux États-Unis, c'est partout dans le monde, mais spécifiquement et grandement aux États-Unis, on a l'armée qui commençait à avoir des difficultés à recruter. Et on sait que la dialectique militaire épouse la dialectique sociale. Donc, s'il y a ça dans l'armée, c'est qu'il y avait ça dans la société. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu un seuil de l'état invisible. Il y a une nécessité, dans la contradiction valeur d'usage, valeur d'échange, de ralentir l'accélération de la chute qui se traduisait sur des choses aussi concrètes que sur l'affaiblissement physique d'êtres humains dans l'armée, chez les pompiers, l'ouvrisme. Et il fallait ralentir tout ça. Et donc, on a l'arrivée de Trump, on a l'arrivée d'un représentant de la médecine du capital qui va ralentir tout ça. Et donc, on a état visible, on a, vous l'avez dit, des guerres entre l'état profond, et visiblement, on a ça. Mais ça, c'est vraiment la nécessité de l'état invisible, et les gens qui passent et dans l'état profond et dans l'état visible ne sont que la conséquence de ça. Et peu importe qui soit honnête, malhonnête, gentil, tout ce qu'on veut, c'est tout ça est toujours une nécessité du capital. Et c'est pareil pour Trump. Les gens pensent que Trump arrive comme ça, va sauver, va parler d'immigration. Mais si Trump parle d'immigration, c'est qu'il y a des problèmes de l'immigration. C'est qu'il y a déjà une réalité de l'immigration. Il y a une réalité de l'immigration. Le prolétariat le vit. Et donc, tout est déjà là. Et tout ça est une longue histoire des profondeurs, toujours de l'état invisible. Et tout ce qui apparaît dans le visible est conditionné par l'état invisible. Et je vais arrêter là, mais juste, on y reviendra parce que c'est fondamental, notamment sur cette question de l'immigration. Les nécessités de l'état invisible font qu'au final, sur le visible, c'est pas géré de la même façon là-bas que les problèmes d'immigration ici en Europe et en France, parce que dans tout ça, dans cet état invisible, il y a des conflictualités entre la mondialité américaine et la mondialité française, qui est fortement attaquée. Mais si elle est toujours attaquée, c'est qu'elle est toujours en potentialité de surgissement. Vous avez parlé du 11 septembre. Je sais que dans la tête de plein de gens, 11 septembre, ça résonne état profond. C'est les gens qui sont jeunes, état profond, 11 septembre. Et justement, dans le voyage au bout de la scène du Capital, il est bien montré que le 11 septembre est là. Et ce qui se passe d'ailleurs après le 11 septembre, il y a plein de gens qui pensent que c'est Saddam Hussein qui est responsable de tout ça, parce qu'il y avait une nécessité. Il y avait eu la guerre du Golfe, et il y avait une nécessité de finir de détruire les derniers vestiges gaulo-pompidouliens de la mondialité française sur le Moyen-Orient. Je sais qu'on dira aussi un mot sur le Moyen-Orient, mais le 11 septembre, il peut être vu, comme vous l'avez dit, avec une loupe, on peut tout regarder, mais si on n'a pas conscience de l'état invisible, mais à chaque fois, avec chaque loupe sur chaque sujet, on peut y passer la vie dessus, et on comprendra jamais la cause profonde qui l'a déterminé.
Une petite précision parce que tu as parlé des ANA, il faut aller au bout de la chose. Les ANA, ils ont fini dans l'État en 1937, on sait quelle est leur pratique réelle, ce n'est pas simplement une erreur théorique. On sait où aboutit cette soi-disant erreur théorique, c'est dans la pratique réelle de l'État, la participation active à l'État en 1937, et le cautionnement lâche et silencieux des massacres des insurgés. Alors après, le problème, c'est que c'est justement pas une erreur de compréhension. Vous parliez tout à l'heure, Francis, que rien ne sort de nos têtes, et en général, rien ne sort de la tête d'un être singulier. L'ANAR croit, alors il comprend que la société, c'est un problème et ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, mais il croit à sa propre pureté d'action. Il ne se voit pas comme pris dans cette logique capitaliste mondiale qui fait que tout est produit du capital, y compris lui-même. Et donc, quand il se saisit d'un objet, il croit que c'est lui, dans sa pureté d'âme, qui fait d'ailleurs jamais l'effort de le creuser, cet objet, donc c'est lui, dans sa pureté d'âme, qui va le transformer par son désir. Et évidemment, le résultat, ben, on connaît, c'est 37. Alors justement, sur cette question qui est hyper importante, de compréhension par-delà la singularité de ce qu'est l'État, la triade dont vous avez parlé, Francis, puis Maurice, État visible, État profond, État invisible, cette triade, c'est une triade d'airain. On ne peut pas abolir l'État profond. Tu parlais, Maurice, du 11 septembre. La désignation, alors tout ça est venu avec Internet, on s'est mis à savoir des choses qu'on ne pouvait pas savoir à l'époque où il n'y avait pas Internet, mais la désignation de toute une réalité qui laissait voir d'une certaine façon que oui, il y avait bien un État profond qui avait manipulé, conduit les gens à s'imaginer qu'il y a donc un problème d'État profond et qu'il faudrait abolir l'État profond. Mais on ne peut pas abolir l'État profond. Puisque cette triade est une petite triade de fer indépassable, c'est l'unité organique de l'État. Et l'exemple actuel d'excitation sur les luttes, on en parlera après plus en détail, mais sur les luttes entre ce que représente Trump et ce qui reste toujours là de l'État profond de l'avant Trump, il y a une chose qu'on sait déjà, c'est que Trump n'abolira pas l'État profond. L'État profond, dans sa logique sous-jacente d'agent actif de la logique de la valorisation, quelle que soit la direction que doit prendre cette logique, il restera, qu'il soit dans la logique ancienne qui perdure ou dans la logique nouvelle qui gagne. Et ça, c'est super important parce que à partir du moment où je comprends le concept d'État, c'est pas des jeux intellectuels, c'est je comprends ce qu'est l'ennemi dans sa nature et je comprends donc comment je m'attaque à l'ennemi. Et y a quasiment que guerre de classe aujourd'hui, parce que aucun résidu gauchiste ne fait la moindre critique de l'État en tant que tel. De l'État en tant que tel. Il faut réformer l'État, toujours, et il faut abolir l'État profond dans la forme désagréable du moment. Voilà. Et après, la question de l'immanence, c'est hyper important, mais quand on dit État invisible, plein de gens ont du mal à comprendre parce que l'État, ça se matérialise pour eux. C'est dans l'aspect visible, c'est l'État, Bayrou, Macron actuellement, Trump ailleurs, etc. Et puis dans l'aspect invisible, ça se matérialise quand même dans l'idée. C'est-à-dire, on ne le voit pas, mais il y a des gens qui organisent. Appeler État quelque chose d'invisible, ça trouble les gens. Mais quand on dit que c'est la logique immanente de la valeur qui produit tout, il faut accéder, et c'est pour ça qu'on peut pas passer outre Marx, le groupe Marx Engels, on peut pas passer à côté du capital, du livre, du capital, et de travailler cette dialectique, parce que c'est cette logique immanente, désincarnée en quelque sorte, qui s'extériorise dans tout ce qui s'incarne, et dans toutes les formes qui s'incarnent. Donc, voilà, je voulais faire cette parenthèse-là, je vous laisse la parole, Francis, pour enchaîner peut-être sur l'aspect historique. Alors, avant de reprendre sur l'aspect historique, je voulais préciser une chose. Trump ne se bat pas contre l'État profond. L'État profond est double. Trump représente une partie de l'État profond et l'administration démocrate représentait une autre partie de l'État profond. Les luttes électorales qu'on a vues dans la manifestation phénoménale du jeu institutionnel où le bétail électoral est venu effectivement animer la scène, ne sont que le reflet d'un conflit de l'État profond. Il y a, alors, on y reviendra historiquement pour comprendre ce qu'on avait annoncé dans les dernières émissions sur l'État transatlantique, mais il y a aujourd'hui deux États profonds. Ou plus exactement, il y a un État profond avec deux tendances qui s'affrontent dans cet État profond. On a une tendance républicaine, on a une tendance républicaine de retour à la valeur d'usage et on a une tendance démocrate qui est effectivement en relation avec l'intensification du crédit chimérique de la finance mondiale. Et d'ailleurs, de la même manière, J'avais un correspondant qui posait la question de la démographie par rapport à ce que nous avions dit sur les émissions où on posait la dialectique Marx-Malthus. Il y a deux démographies. Il y a une démographie de retour à la valeur d'usage et il y a une démographie qui est dans la persistance effrénée de la valeur d'échange. Quand, dans le cadre de l'état profond transatlantique, il y a un conflit entre ceux qui vous disent on peut être un homme, on peut être une femme ou on peut être autre chose, et ceux qui vous disent bah non, on peut être qu'un homme ou qu'une femme, il y a le conflit des deux états profonds. Il y a ceux qui veulent une démographie productive et il y a ceux qui veulent une démographie improductive. On retrouve le problème du néo-malthusianisme dans ses autonégations successives. Le LGBTisme, la révolution arc-en-ciel telle qu'elle est défendue par le capital progressiste de la marchandise à travers l'open society, c'est la version la plus effrénée d'une démographie improductive qui dit, ben non, on peut être autre chose qu'un homme et une femme, et puis on peut être alternativement l'un ou l'autre, puis il y a plein d'autres genres. Quand Trump dit, on ne peut être qu'un homme ou une femme, c'est pas simplement un discours social ou sociétal sur la réalité de la révolution arc-en-ciel, c'est la manifestation d'une lutte au sein de l'état profond entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, entre deux modèles archétypales du hiéroglyphe du capital. Et c'est je suis obligé de dire qu'il n'y a que des hommes et des femmes. Si je retourne à un modèle classique de démographie productive dans le cadre d'un retour au sol industriel, d'une rénovation sociale qui veut reconstruire une géopolitique de production, et je suis obligé de dire au contraire, vive le LGBTisme, si je suis dans le capital fictif de la course effrénée à la chimère financière, puisque la chimère financière, qui est le stade liquide de la décomposition du capital, veut des êtres liquides en transmutation permanente. Donc le problème révolution arc-en-ciel, LGBTisme ou pas LGBTisme, c'est d'abord et avant tout l'état invisible du développement de la valeur d'échange qui positionne des contradictions dans l'état profond. Et donc l'état profond, il est bien double. Et on y reviendra tout à l'heure, l'état profond transatlantique qui s'est créé dans la longue histoire, on a parlé au moment de la guerre d'Algérie de la culpabilisation voulue de la France et de l'histoire européenne pour imposer le gauchisme culturel américain. Rappelez-vous toujours du bouquin de Servan Schreiber, le défi américain. Il n'y avait pas un défi américain auquel il fallait s'affronter, il y avait un défi américain qu'il fallait assumer en devenant nous-mêmes des Américains. Finalement, Servan Schreiber dit la même chose que Debord à l'envers. Debord dit, nous nous sommes faits des Américains au sens où nous sommes devenus des abrutis de la valeur d'échange la plus moderne. Et Servan Schreiber dit, c'est génial, la valeur d'échange la plus moderne de l'américanisation, c'est l'avenir du monde. Mais donc, l'État transatlantique qui s'est constitué postérieurement au débarquement de 44, c'est la première fois qu'il y a un État transatlantique visible, un État transatlantique profond qui correspond à l'impérialisme américain de la valeur d'échange, qui est la valeur d'échange qui a gagné le Second Conflit mondial. Donc aujourd'hui, il y a bien un État transatlantique d'hégémonie mondiale qui s'est cassé. Parce que aux États-Unis, la partie de l'État profond qui veut revenir à une démographie productive en relation avec le sol industriel d'une valeur d'usage pertinente et tangible, est en conflit avec l'ordre transatlantique dans sa partie bruxelloise. Et quand l'Amérique dit on peut être un homme ou une femme et rien d'autre, et que en Europe, il y a toute la propagande LGBTiste qui continue intensivement, adéquatement à la valeur d'échange du crédit chimérique. C'est le conflit de l'État profond autour, effectivement, des enjeux industrie-finance, note sur Wagner, continuation de la valeur d'échange, retour à la valeur d'usage. Donc, il ne faut pas se tromper sur les indices. Le spectacle visible des clowneries LGBTistes, il renvoie à un État profond qui actualise les nécessités stratégiques de l'État invisible, dans sa dimension de crédit chimérique continue et continuellement reproduite. Donc on y reviendra tout à l'heure sur l'Amérique, mais bon, on a cet état profond totalement asservi à la valeur d'échange, dans sa dimension valeur d'usage comme valeur d'échange, puisque la valeur d'usage n'est qu'une métastase de la valeur d'échange qui s'est développée dans la synthèse des usages totalement arraisonnés par l'échange de la marchandise. Mais ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a des phases. Il y a des phases. On en a parlé entre nous. Quand on met en perspective la relation historique, quand on met en perspective la relation historique, quand on passe par exemple de la féodalité relativement pure de Saint-Louis à la féodalité réorganisée de Philippe le Bel, on a une transmutation du lien féodal et on a quelque part un appareil d'État profond qui se met en marche, Enguerrand de Marigny, Nogaret, tout le conflit de Philippe le Bel avec la finance de l'époque, les Lombards, les Juifs, les Templiers, ça met en marche un appareil qui échappe à la féodalité traditionnelle. Entre Saint-Louis et Philippe le Bel, j'ai quelque chose de nouveau qui apparaît derrière le monarque et qui échappe à ce que l'on appelle les grands du royaume. Alors bien évidemment, l'état de Philippe le Bel, dans ses marges profondes, n'a rien à voir avec l'état italien tamisé au moment du meurtre d'Aldo Moro. Entre la liquidation des Templiers et le meurtre d'Aldo Moro, la profondeur de l'état profond a bien évidemment totalement été en transmutation, en solidification, en cristallisation et en ovation de nature, en ovation de nature. Donc, l'état profond qui émerge, on peut dire avec Philippe le Bel, et qui va aller jusqu'en 1914 dans des formations successives, contradictoires, complémentaires, c'est un état profond qui rend compte d'une dialectique de l'état invisible mixte. Je dirais même hétéroclite, puisque jusqu'en 14, il y a un conflit dans l'état profond entre le capital et l'anté-capital. Donc, l'état profond jusqu'en 14, il y a des contradictions, des conurbations, des antithèses entre la rente commerciale, entre la rente foncière, entre la rente industrielle. Ça bouge, ça va, ça vient, mais c'est pas fixé. C'est au moment de la guerre de 14 que l'hégémonie de la valeur d'échange aura liquidé toutes les antériorités préalables, toutes les antériorités préalables. Et on va commencer à avoir un état profond qui exprime la pureté dictatoriale de la valeur d'échange. Mais il y a déjà l'état profond qui travaille sous Louis XV, sous Louis XVI. On a cité le fameux Couthon, que d'ailleurs je souligne dans le voyage au bout de la fin du Capital. Couthon, qui était donc membre de la loge Saint-Maurice, et qui dit à un moment donné, mais alors il faut creuser ce qu'il dit, puisqu'il le dit justement du point de vue de l'état profond. Et il dit, tout s'est joué dans les journées révolutionnaires au club des Jacobins. Sous-entendu, dans l'articulation de la franc-maçonnerie de l'époque. Et alors là, on a un enjeu radical de méthode avec toutes les clowneries sur le maçonnisme du capital. C'est-à-dire que vous avez des ribambelles de cohortes et de chapelles qui ont fétichisé, depuis les Illuminés de Bavière, à travers toutes les loges maçonniques, la surdétermination de la franc-maçonnerie dans tout le développement de la modernité des Lumières et dans tout le développement révolutionnaire de la révolution capitaliste de 1789. Ben voilà exactement l'endroit méthodologique où Marx renvoie aux poubelles de l'histoire tous les complotistes de la loge. La franc-maçonnerie ne fait rien. La franc-maçonnerie est au cœur de l'état profond, mais elle ne fait rien. Elle ne fait que traduire les avancées dialectiques de l'état invisible, de la valeur d'échange qui monte, qui monte. Il n'y a pas de franc-maçon sous Clovis. Il n'y a pas de franc-maçon sous Philippe le Bel. Il n'y a pas de franc-maçon sous Louis XI. La franc-maçonnerie, elle n'arrive pas comme ça. Tiens, d'un seul coup, il y a des loges qui veulent, en souterrain, dans le cadre du travail de l'état profond, amener un nouveau monde. Ben non! Les loges n'apportent pas un nouveau monde, c'est le nouveau monde qui fait la nécessité objective des loges dans l'état profond. Et la franc-maçonnerie représente le langage ésotérique narcissique de toutes les cliques, de toutes les chapelles, de la modernisation révolutionnaire de la société qui va effectivement liquider le féodalisme. Et d'ailleurs, la révolution de 1789, elle démarre comme une révolution des privilégiés. C'est la noblesse qui est enlogée à 99,99% qui met en marche le processus révolutionnaire. Le processus révolutionnaire qui va constamment se radicaliser à travers les jeux maçonniques, mais les jeux maçonniques de l'état profond qui sont déterminés par l'état invisible des évolutions de la valeur d'échange et des évolutions des luttes sociales qui sont autour du phénomène révolutionnaire. Parce que quand le phénomène révolutionnaire commence avec Philippe d'Orléans, grand maître du Grand Orient, on est au début du processus, et cette clique-là va être liquidée. Puis, quand les Girondins vont être au pouvoir, ils vont être à leur tour liquidés. Puis, les Montagnards seront à leur tour liquidés. Puis, les Thermidoriens seront à leur tour liquidés. Puis, le coup d'État de Napoléon, qui à l'époque s'appelle Bonaparte, liquidera tout le monde. Et puis, lui, au bout de toute une série de processus, il sera liquidé lui-même par un État profond, par un État profond qui n'a plus besoin de lui, parce que la valeur d'échange qui organise l'état invisible est passé à un stade supérieur. Et d'ailleurs, on en a parlé aussi entre nous, parce que bon, on a pas mal de rencontres intelligentes entre nous, et on a parlé des fameux 100 jours. Les fameux 100 jours, c'est le retour dans le champ de l'état visible de Napoléon, qui est acclamé à la fois par les catégories populaires de la plèbe, puisque le prolétariat n'existe pas encore comme sujet historique, qui se matérialisera dans la période 1830-1848. Donc, l'empereur, au cours des 100 jours, est plébiscité par la plèbe et par l'armée, jusqu'à un certain nombre de grades, parce que bien évidemment, les maréchaux sont eux aussi en logés, mais la loge, elle est passée à Louis XVIII. La loge, elle est passée à Louis XVIII, parce que l'état profond, il n'arrête pas de bouger en fonction des nécessités stratégiques de l'état invisible. Et donc, c'est le moment décisif, c'est précisément le moment où l'état invisible bascule à un seuil supérieur, qui fait que l'état profond bascule lui-même à un seuil supérieur, et que puisqu'il bascule à un seuil supérieur, l'état visible bascule à un seuil supérieur. Et quand Louis XVIII revient de Gand, on bascule à un seuil supérieur dans l'état visible, puisque le roi Podagre revient, mais le roi Podagre revient parce que l'état profond l'a appelé, parce que l'état invisible a appelé l'état profond à organiser un seuil dialectique d'extériorisation des contradictions de la valeur d'échange. Et donc, ça bouge en permanence. Je ne sais pas si les auditeurs se rappellent, on avait parlé à plusieurs reprises, quand on parlait de Waterloo, quand on parlait de l'Empire, quand on parlait de Trafalgar, d'Austerlitz et des grandes mutations de la mondialité française, on avait parlé du meurtre de Paul Ier. Et alors ça, c'est un passage qui est extrêmement important sur l'état profond. C'est-à-dire qu'il y a des états profonds qui sont extrêmement puissants dans leur homogénéité. Entre 1944 et 2000-2010, l'état profond américain est relativement homogène. Il est relativement homogène. Il n'a jamais vécu de cassure aussi tenace et aussi insistante que celle qu'il rencontre aujourd'hui depuis l'élection de Trump. Il y a un accord global des tendances dans l'état profond, qu'elles soient financières ou industrielles, pour mener des grandes opérations, comme par exemple le 11 septembre, comme par exemple le grand chaos irakien, comme par exemple toutes les opérations contre le Shah d'Iran. L'opération contre le Shah d'Iran, l'opération contre Saddam Hussein, elle est validée par l'État profond dans sa globalité, quelles que soient ses tendances, parce que la valeur d'échange américaine, à ce moment-là, se globalise dans une acceptation globale de ce qui va produire une homogénéité de l'État profond. Mais il y a des états profonds qui sont extrêmement conflictuels. Et Paul Ier, c'est un très très bon exemple. On a à l'époque la mondialité anglaise, et bien évidemment la mondialité anglaise du développement de la valeur d'échange de l'état invisible, mais qui n'est pas qu'à Londres. L'affaire du blocus continental montre qu'il y a déjà, non pas la puissance américaine de l'État transatlantique, mais la puissance anglaise dans toute une série d'États où l'Angleterre travaille à être l'état profond d'Amsterdam, l'état profond de Stockholm et l'état profond de Moscou. Paul Ier est assassiné parce que il a, entre 1800 et 1801, des velléités d'alliance stratégique avec Napoléon. C'est déjà quelque part une intelligence de pré-Rapallo. Et Paul Ier va être assassiné et c'est son fils Alexandre Ier qui prendra la suite. Qui participe à l'assassinat? Les services anglais et avec en particulier un des chefs d'état-major de l'armée russe qui s'appelle Bennigsen. Mais Bennigsen, c'est un Allemand. Il est lié à la famille hanovrienne. Mais la famille hanovrienne, elle est sur le trône d'Angleterre. Il y a donc un état profond anglais, mais qui a des métastases dans la totalité européenne. Et les métastases de l'état profond anglais sont tellement fortes qu'elles vont permettre l'assassinat de Paul Ier et donc la succession avec Alexandre Ier, qui sera, même s'il y a l'entrevue avec Napoléon, la fameuse entrevue du Niemen et l'idée du blocus continental, Alexandre Ier, contrairement à Paul Ier, basculera dans l'alliance anglaise. Mais il y a un état profond russe. Il y a un état profond russe, puisque Paul Ier n'a pas voulu l'accord avec Napoléon par lubie personnelle. Il y a, dans le cadre du développement de l'archaïsme russe, à travers le commencement d'une valeur d'échange industrielle, la rente foncière, la rente commerciale, il y a un état profond russe qui veut l'accord avec Napoléon. Mais il y a un autre état russe qui, lui, complètement sous la dépendance de la City, va vouloir la mort de Paul Ier. Il y a donc un état profond, mais qui n'est pas homogène, avec des pro-anglais, avec des pro-français, mais l'état profond ne décide de rien. C'est la réalité spatiale de la géographie, de la valeur d'échange, telle qu'elle positionne l'Empire russe, qui fait qu'à un moment donné, Bennigsen et les Anglais vont décider de la mort de Paul Ier. Mais ils ne décident pas de la mort de Paul Ier parce que c'est l'état profond qui décide. Ils décident de la mort de Paul Ier parce que l'état profond est la chambre d'enregistrement des positions immanentes, nécessaires et substantielles de la valeur d'échange. Donc, faut comprendre tout ce travail-là et toute l'histoire est l'histoire d'un état profond, homogène, pas homogène, unifié, pas unifié, qui travaille contradictoirement les réalités objectives du développement de la valeur d'échange entre les tendances passées, les tendances à venir, les cristallisations présentes et la dialectique des antinomies. La dialectique des antinomies. Ce qui produit l'auto-présupposition de l'état profond à un moment donné, c'est la dialectique des antinomies qui passe de l'état invisible à l'état profond pour aller se matérialiser dans la réalité objective de l'état visible. Et puis, on peut prendre plein d'exemples. On a parlé plein de fois de l'affaire Boulin. Bon, alors, le type maniaco-dépressif qui s'imagine que l'état profond a du pouvoir. Alors, Chirac. Pasqua. Ah ouais, alors, qui tire les ficelles? Le commando qui était dans les Yvelines, comment ils ont enlevé Boulin, etc. Tout ça, c'est l'écume surfacière des choses. La question, c'est, dans la crise du capital, la réorganisation à l'époque giscardienne de toutes les recompositions qui sont en train de liquider par grignotage successif la France gaulo-pompidolienne. Bah, Chirac, Boulin, ça c'est l'écume des choses visibles. Mais pourquoi assassine-t-on Boulin? Parce qu'à un moment donné, dans toute cette décomposition qui fait l'impossibilité pour le giscardisme d'assumer la continuité historique du gaulo-pompidolisme au moment où Boulin a des dossiers extrêmement importants, la dialectique de l'état invisible qui est en réorganisation à travers le giscardisme, qui est une nouvelle vision française complètement en situation de basculer dans l'européisme de Bruxelles, fait qu'à un moment donné, les dossiers de Boulin sont insupportables s'ils accèdent à la sphère de l'état visible. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas accéder à la sphère de l'état visible, l'état profond, en nécessité d'appliquer les mesures déterministes de la dialectique historique de l'État invisible va liquider Robert Boulin. Et le jour même où Robert Boulin est assassiné, l'intégralité des structures de l'État profond qui représentent la dialectique historique de l'État invisible vont communiquer tous ensemble dans une unanimité totale, Robert Boulin s'est suicidé. Et alors après, on aura toutes les magouilles pour faire disparaître les preuves, etc. Mais ce que Marx nous a appris, c'est que rien ne se passe s'il n'y avait pas la dialectique historique du déterminisme de la valeur d'échange qui exprime la réalité objective de l'état invisible. Alors, l'état invisible, comme l'a dit Maurice tout à l'heure, on ne le voit pas. Si vous vous promenez dans la rue, si vous vous promenez dans la rue, vous voyez des voitures, vous voyez des feux rouges, vous voyez des pavés, vous voyez des immeubles, vous voyez toutes les matérialisations visibles de la production dialectique des forces productives. Et vous ne voyez pas non plus l'état profond, puisque l'état profond, comme le dit Marx, il est impénétrable. C'est ce que dit d'ailleurs Debord à propos de l'assassinat d'Aldo Moro. Aldo Moro était retenu dans des espaces impénétrables. C'est ça l'état profond. Aldo Moro était retenu dans des espaces impénétrables. Les structures des services italiens et de l'OTAN le retenaient dans un immeuble où tout le monde savait où il était. Mais c'était impénétrable parce qu'il y avait une nécessité stratégique à réorganiser la péninsule italienne adéquatement aux nécessités objectives de l'État invisible, totalement asservi à la dialectique de l'OTAN. Et donc, on savait tous où il était, mais personne ne pouvait dire où il était. Et il était condamné à mourir là où il était. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe dans l'État profond, c'est ce qui se passe dans la dialectique entre l'état invisible et l'état profond, et l'état invisible, la dialectique historique de la valeur d'échange, la baisse du taux de profit, la saturation du marché, les lois logiques du seuil dialectique défini dans l'introduction de 1857. Vous pouvez prendre un microscope électronique, le mettre sur un camion et parcourir toutes les rues de la ville, vous ne verrez pas l'état invisible, puisque précisément il est invisible, il est l'immanence omniprésente du faux omniprésent qui apparaît dans l'état visible, dans le champ de cet état invisible qui, par la médiation de l'état profond, se réalise. C'est le concept. C'est le concept. Le concept, on ne le voit pas, mais on le voit partout, dans ses effets. C'est le conceptus organique du mouvement de l'histoire.
Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de la démocratie, et c'est vrai que si on se contente de dire que c'est pas les hommes qui décident, on peut toujours se dire, ah oui, mais il y a un système, il y a une démocratie qui fonctionnerait mal, et il faudrait une démocratie qui fonctionne mieux, parce que c'est pas les hommes qui décident. Il y a beaucoup de personnes sont amenées à aller vers ça, et d'ailleurs, je renvoie aux citations qui sont passées en début d'annonce d'Engels, où il dit qu'il faudra abattre l'État et donc la démocratie, parce que la démocratie ne fonctionne pas mal, elle fonctionne comme elle doit fonctionner. Et on est dans une dictature démocratique parce que c'est l'État invisible, c'est la dialectique des forces productives qui a produit aussi la démocratie, dans lesquels on s'épanouit les États. Mais vouloir se raccrocher à une démocratie, c'est toujours ne rien comprendre à ce qu'est l'État invisible. C'est toujours s'attaquer à un effet et en gardant ce qui a fait, en gardant la cause qui a produit cet effet.
Mais ce que dit Maurice est important, mais on en revient toujours à l'ignorance crasse et à l'incapacité de volupté des êtres à ne pas vouloir creuser et à ne pas vouloir lire. Si je lis les textes du groupe Marx Engels, je sais que la démocratie, c'est le pouvoir du démos et que le démos, c'est pas la population neutre, que le démos, c'est la population arraisonnée au territoire de la valeur d'échange. Donc la démocratie est par essence, dans la manière dont elle surgit en Grèce, la gestion du territoire de la valeur d'échange. La démocratie, c'est le territoire de la valeur d'échange. Démos, c'est dème. Le dème est une unité territoriale de la valeur d'échange. Euh, que, qu'en 2025, il y a encore des crétins pour ne pas savoir que la démocratie, c'est l'œdème et que c'est le territoire de la valeur d'échange, bah c'est l'inculture, c'est le youtubisme, c'est la non-lecture. Le mec qui a 2 secondes de passion, qui a un tout petit peu d'érotisme et de volupté, il se pose la question, mais comment est née la démocratie? Et la démocratie, c'est pas le peuple comme unité de population neutre. C'est la population du territoire de la valeur d'échange. Donc la démocratie, c'est la valeur d'échange, c'est la démocratie. Donc comme le dit Marx, comme le dit Engels, comme le dit Bordiga, à bas la démocratie, à bas le capital, à bas l'État, à bas la politique, à bas l'économie. L'économie, c'est la politique, c'est l'économie, c'est la valeur d'échange, c'est la démocratie, à bas la démocratie, qui est le pire des esclavages, puisque c'est la forme supérieure de la dictature, c'est la dictature auto-organisée par l'épave circulatoire du dème de la valeur d'échange.
Est-ce que c'est pas plutôt, vous l'avez dit, c'est une question de passion, c'est-à-dire que c'est pas de la bêtise. Quand vous expliquiez tout à l'heure quelque chose sur la situation autour de Paul Ier, etc., ça m'a fait penser à un truc très actuel, d'un, je vais pas le nommer, c'est pas la peine, d'un type qui écrit des bouquins sur ce qu'il appelle la guerre de l'énergie et qui est très intéressant. En surface première, il dit des vérités. Mais qu'est-ce qui fait qu'un être qui veut voir derrière ce qui se passe en réalité s'arrête à guerre de l'énergie et n'arrive pas à voir que c'est la guerre de l'énergie du taux de profit, justement, parce qu'il y a une place gigantesque de l'énergie due à la place gigantesque qu'a pris la machinerie, le capital constant, dans le rapport social capitaliste. C'est pas de la fainéantise. C'est une nécessité de s'arrêter là où mon désir s'arrête. Quelqu'un qui voudrait une recomposition politique franco-française, il va bosser jusqu'à ce que l'endroit où il veut arriver, ben il y arrive. Il n'a pas besoin d'aller voir derrière. Il faut vouloir chambouler l'existence pour aller derrière le concept de démocratie dont parle Maurice. C'est génial parce que c'est le totem absolu. C'est le totem absolu. C'est beau et bon par principe. Ça renvoie à la vie de chacun. La distance qu'on raconte, qu'on explique là entre l'état profond et l'état visible, cette distance entre ce qu'on voit et ce qu'il ne faut pas, absolument pas voir. On le retrouve dans les existences de chacun, dans son organisation personnelle, où il y a, selon les nécessités de chacun, c'est très variable, des zones inracontables à soi-même. C'est comme ça qu'on comprend le bouquin de Bord sur la société du spectacle, quand il dit tout ce qui était directement vécu s'est échappé dans une représentation. C'est exactement ça, c'est la distanciation. Qui a, notamment dans l'explosion de 1789, c'est vrai, même s'il y a ce qu'on peut appeler un état profond avant, mais l'organisation de la distanciation de plus en plus grande, qui ne cesse de grandir entre le visible et ce qui ne doit absolument pas l'être, on aboutit à la société du spectacle, qui est le résultat de cette chose-là. Mais chaque réalité humaine personnelle est une petite société du spectacle où il y a un donné à voir particulier dans le rapport social avec son entourage. Tout un tas de choses qu'il ne faut surtout pas voir, et derrière la dialectique qui met en relation l'une et l'autre, et que la personne elle-même ignore totalement parce que c'est celle qui nécessiterait le chamboulement généralisé. C'est jamais vous êtes d'accord avec ça? C'est jamais des erreurs de principe ou de simples fainéantises.
Non, mais j'entendais pas par fainéantise simplement le type qui est fainéant. C'est une fainéantise du désir, c'est une fainéantise de l'ouverture, c'est une fainéantise de la volupté, c'est une fainéantise du savoir. C'est le faire néant, c'est le faire néant. Je prends un exemple tout bête, j'ai un correspondant qui me parlait des structures familiales. Alors vous avez des auteurs qui se sont perdus dans la famille souche, dans la famille cellulaire, dans la famille communautaire ouverte, dans la famille communautaire fermée, dans l'endogamie, dans l'exogamie. Mais on peut faire des symphonies d'écume surfacière qui n'ont aucun intérêt et qui sont du crétinisme universitaire absolu. Le problème, c'est pas de savoir si une société fonctionne dans un cadre communautaire donné, c'est à travers les travaux de Hegel, du groupe Marx-Engels, comprendre la dialectique des forces productives qui fait que En fonction du seuil historique des forces productives, j'ai un type familial donné. Si je pars sur les types familiaux, alors j'analyse les types familiaux. Au Maghreb, c'est comme ça. En Europe orientale, c'est comme ça. En Europe du Nord, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a une dialectique des forces productives mondiales qui travaillent, qui construit des espaces, et on en revient à l'introduction de 1857, qui construit des seuils, qui construit des seuils dans la formulation à la fois communautaire et individuelle, qui fait que la structure familiale de l'Italie du Nord, elle est comme ça, la structure familiale de l'Andalousie, elle est comme ça, au Maghreb, elle est comme ça, mais elle n'est pas comme ça par hasard. C'est parce qu'il y a une structure sociale qui travaille la formation sociale et qui fait que ça représente un seuil dans la nécessité que la famille doit être adéquate au devenir des nécessités de l'auto-présupposition de la dialectique des forces productives. Autrement dit, il y a aujourd'hui une inflation de production sociologique sur la famille qui sont sans aucune validité et qui est produite par toute une série de ténors universitaires du crétinisme de la marchandise qui n'ont pas lu L'origine de l'État, de la famille et de la propriété de Engels. Et donc, on peut écrire des milliers de pages, c'est ce que je disais à mon correspondant, complètement à côté de la plaque, puisqu'on décrit un phénomène sans comprendre la cause organique qui est précisément la dialectique des profondeurs de l'économie politique de la valeur d'échange à travers le temps.
Et donc, le gars dont je parlais tout à l'heure, qui s'intéresse à cette guerre de l'énergie, vous parlez de Paul Ier, il va voir que, qu'il y a un problème avec l'État profond allemand qui est intégré jusque dans les bureaux, du ministère de l'énergie en France. Il va en déduire donc qu'il y a une contradiction étatique France-Allemagne, comme si, ça existait. Mais par définition, si cette réalité existe en Allemagne, c'est l'État profond américain en Allemagne qui a des bureaux dans l'État profond américain en France. C'est le problème. Même les gars, parce que c'est le gars dont je parle, je peux le citer, c'est Bouglé, Fabien Bouglé, il écrit des bouquins intéressants sur la réalité objective de la destruction
Mais c'est empirique.
méthodologique de la capacité énergétique française. Mais même lui qui va le plus loin, c'est hyper important de se rendre compte que, on le répète de façon de mois après mois, année après année, mais c'est parce que je lis les bouquins du groupe Marx Engels, notamment et essentiellement, qu'ensuite toutes ces choses-là prennent du sens. Parce que, à quoi ça amène? Ça va amener que, donc, il faudrait qu'il y ait un État profond français. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un État profond français? Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la passion. C'est-à-dire que ce qui doit, à partir du moment où je constate qu'il y a une distance entre ce qu'on me montre et tout ce qu'on ne me montre pas, c'est la réalité objective que je revois dans ma vie personnelle, etc., d'une division que je veux abolir si je veux vivre. Et c'est jamais nulle part, à part à guerre de classe. Alors, c'est pas des autoflatteries, on invite tout le monde à le voir et à le regarder, mais nulle part, ces réalités sont regardées dans leur objectivité.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Ce qui est vachement important, c'est que alors on a parlé de Louis XV, Louis XVI, Philippe le Bel, Alexandre Ier, Paul Ier. On a parlé du débarquement américain en 42 en Afrique du Nord, puis de 44. C'est là que se crée pour la première fois un État profond mondial, puisque c'est là pour la première fois que dans le jeu impérialiste mondial, le Pentagone, la CIA et la Maison Blanche organise une mondialité stratégique américaine de premier plan, qui d'ailleurs a fait de la Russie une métastase. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été l'industrialisation de la Russie capitaliste d'État par le jeu bancaire et industriel américain. Mais donc, il y a un État transatlantique qui se crée, parce que bon, il y a eu des ratés dans l'État visible avec l'AMGOT. C'est-à-dire que la mainmise immédiate avec une monnaie américaine, avec des gouverneurs militaires américains, a échoué grâce à De Gaulle. Mais il se crée un État transatlantique. La SFIO fait partie de l'État transatlantique. Toutes les droites libérales font partie de l'État transatlantique. Toute la modernité française à partir de 1944, se constitue dans le giron américain. Giron visible et giron de l'État profond. La communauté économique européenne, Jean Monnet, c'est une articulation des profondeurs à travers un État profond qui actualise les nécessités stratégiques de l'État invisible. Et la totalité des États, l'affaire Mattei par exemple, l'affaire Mattei, avant l'affaire Moro, on en a parlé à plusieurs reprises, l'État profond italien, qui est à 90% transatlantique et qui représente l'hégémonie américaine, va liquider tout ce qui, dans l'État italien, encore des velléités nationales. Mattei, c'est une vision stratégique nationale italienne pour avoir des relations pétrolière avec la Libye, l'Algérie, et puis des relations pétrolières avec la Russie, c'est déjà une définition qui appelle ce que voudra Moreau, un non-alignement. On a flingué Moreau pour péché de non-alignement, et on a flingué Mattei pour péché de non-alignement. Il y a donc une petite partie de l'État profond italien qui est indépendantiste, et il y a la large partie de l'appareil militaire et policier italien en fusion industrielle, bancaire et financière, qui est État transatlantique. Donc on flingue Mattei. Mais quand De Gaulle revient, il va avoir un mal fou à lui-même produire un État profond adéquat à la forme de l'État invisible qu'il représente. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec tout l'appareillage de la 4e République qui est à fond transatlantique. Mitterrand, transatlantique, Le Canuet, transatlantique, Servan-Schreiber, transatlantique. Tout ce qui constitue l'État profond, industriel, médiatique, des organisations d'assujettissement à l'ordre américain, il l'a face à lui. Et il va avoir un mal fou avec ses relais à créer quelque chose, mais dont il ne sera jamais en prépotence assuré. Et la guerre que l'hégémonie américaine de l'Europe transatlantique, dans le cadre de l'État transatlantique, l'État de l'OTAN, l'État du Pentagone, mène contre De Gaulle, elle a plein d'alliés dans l'État profond français. Parce que dans l'État profond français, il y a une partie gaulliste assez active, mais il y a toute une partie qui est transatlantique anti-gaulliste. Et les attentats du petit Clamart, c'est organisé dans une symphonie très particulière. Alors bon, les gens croient que Bastien Thiry a organisé l'attentat du petit Clamart avec d'autres pour l'Algérie. Alors il y a pour l'Algérie un peu, mais le grand motif de l'attentat auquel participe Bastien Thiry, c'est pas l'Algérie. Il y a l'Algérie. Mais c'est d'abord et avant tout parce que De Gaulle veut rompre les liens de sujétion à l'OTAN. Donc les attentats contre De Gaulle, qui sont organisés à partir d'informations qui vont vers l'OAS, ce sont des informations qui découlent même du Conseil des ministres. Et on se pose la question de Poniatowski, on se pose la question de Giscard. Mais l'OAS est très très bien renseigné. Et quand la voiture va passer à Pont-sur-Seine, ils sont renseignés. Alors ça, c'est un détail de l'État profond. Mais ça montre qu'il y a des enjeux considérables. Alors ce n'est pas l'État profond qui décide d'assassiner De Gaulle. C'est la marche en avant de l'État invisible, de l'impérialisme américain des réorganisations. L'impérialisme américain des réorganisations, il a financé le FLN, puis après il va financer l'OAS, et puis à la fin, il intervient activement dans les événements de mai 68, non pas du côté de la grève sauvage, évidemment, mais du côté de la déstabilisation gaulliste. Et il interviendra massivement dans le référendum de 69 pour foutre De Gaulle à la poubelle. Donc l'État profond est toujours là, mais l'État profond n'a pas d'autonomie. C'est ce que nous apprend Hegel et c'est ce que nous apprend le groupe Marx Engels. Le scénario, c'est un peu ce que je fais en philo-analyse quand je dis aux gens, votre scénario personnel n'a pas d'autonomie, votre scénario familial n'a pas d'autonomie, votre scénario familial représente un seuil dialectique du scénario mondial de l'aliénation universelle. C'est pareil pour l'État profond. L'État profond n'a pas d'autonomie. À Davos, à Bilderberg, dans tous les centres de réflexion articulé en souterrain pour faire avancer, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie. Le Great Reset, il n'a pas d'autonomie. Il n'est pas né dans le cerveau des hommes qui veulent le mettre en mouvement. Il est né dans la dialectique immanente de la valeur d'échange qui rentre dans la tête des laquais distingués de l'ésotérisme narcissique de la marchandise. C'est des clubs, les maîtres du monde sont une assemblée de crétins universels narcissiques. Ils s'imaginent être maîtres, et leurs adversaires aussi, parce que les maîtres du monde qui ne sont maîtres de rien ont comme meilleurs alliés ceux qui font la critique de l'état profond d'une manière superficielle en disant, oh, vous voyez, c'est terrible, il y a des maîtres du monde. Ce ne sont pas les maîtres du monde. Ce sont les larbins de la marchandise universelle telle qu'elle est organisée par l'État invisible. Et si je ne comprends pas ça, je ne comprends rien. Je comprends rien à la Révolution française, je comprends rien à la franc-maçonnerie, je comprends rien au cercle ésotérique qui magouille en souterrain, et je comprends rien à l'État profond. L'État profond n'a pas de scénario autonome. Il indique un seuil dialectique tel que ce seuil dialectique est programmé par l'ingénierie sociale de la marchandise. C'est pareil, la grande mode de l'ingénierie sociale. Alors, on applique la publicité au champ politique. Alors, il y a des grands stratèges souterrains qui organisent des révolutions vertes, des révolutions oranges, des révolutions bleues. On manipule les masses, on manipule les foules. Mais c'est débile. C'est la valeur d'échange qui rend nécessaire cette nécessité stratégique à un moment donné et qui lance la symphonie des manipulations telle que cette manipulation symphonique vient s'illustrer dans des groupes qui structurent l'état profond. Mais c'est une conséquence. Et effectivement, si on ne comprend pas ça à partir de la dialectique du fétichisme de la marchandise et son secret, on ne comprend rien au fait que la seule conjuration qui existe, c'est la conjuration de la marchandise contre la vie humaine émancipée. Et c'est tout ça qu'il faut dialectiser. Et c'est un travail énorme. Il faut lire La science de la logique, il faut lire l'introduction de 1857, il faut lire Les Grundrisse, il faut lire Le Capital. Tout ça avec un gigantesque vertige de volupté, de conscience, d'attention, de tension, de méthode et de volonté. Et là, on pige. Et là, on se retrouve dans ce que dit Hegel quand il parle du savoir total. Qu'est-ce que le savoir total? C'est la compréhension générale du mouvement global de la totalité de la totalité, ce que reprend Marx dans le Manifeste communiste quand il dit qu'est-ce qu'un groupe radical, qu'est-ce qu'un groupe communiste? C'est un groupe qui par-delà l'apparence, qui par-delà l'écume des choses, qui par-delà la phénoménalité, saisit la phénoménologie, c'est-à-dire il a la conscience des fins générales du mouvement. Et les fins générales du mouvement, c'est l'état invisible qui produit l'état profond, qui produit l'état visible.
Ce que vous disiez là, ça me fait penser au sketch en permanence de la soi-disant fabrique du consentement. C'est l'ingénierie sociale. Il y aurait
Des
une machinerie.
fabricateurs.
Comment?
Il y aurait des fabricateurs.
Oui, il y aurait une machinerie activable pour faire penser, ressentir quelque chose aux gens, alors que les gens sont tous, par définition, à des seuils extrêmement variés. Le résultat, non pas d'une machinerie, mais d'une dialectique des rapports sociaux qui fait qu'ils consentent par eux-mêmes. La fabrique, c'est le rapport nécessaire du gars qui consent de toute façon à la logique qui le fait consentir. Mais c'est absolument pas une mécanique. Ceux qui fixent sur l'ingénierie sociale adorent l'ingénierie sociale positive.
Oui, bien
Je ne peux pas
sûr.
encore citer de nom, mais il faut s'emparer des outils de l'ingénierie sociale. Et puis pourquoi pas de l'état profond pour faire un état profond humain. Et là, entre. Allez, allez-y.
Mais alors, on en revient toujours à Hegel et au génitif. L'ingénierie sociale n'existe pas. C'est l'ingénierie sociale de la valeur d'échange. Et c'est pareil, là, on va en reparler pour Israël, le grand dada de l'eschatologie millénariste. C'est l'eschatologie millénariste de la valeur d'échange. J'en discutais avec un correspondant. Je veux dire qu'il y a le judaïsme, comme d'ailleurs le coranisme, c'est d'ailleurs la même chose à des degrés divers, c'est l'aliénation judéo-musulmaniste. Tout ça, ça n'est pas né chez les Esquimaux ou chez les aborigènes. C'est le coranisme de la valeur d'échange, le judaïsme de la valeur d'échange. Et le judaïsme, le contrat abrahamique de la valeur d'échange, a créé un messianisme, il a créé un millénarisme, parce qu'il a créé un suprématisme de l'exclusivisme de la valeur d'échange. Et il ne peut pas y avoir d'exclusivisme de la valeur d'échange, c'est-à-dire un millénarisme qui veut reconstituer le temple chez les aborigènes ou chez les Esquimaux. Là encore, c'est la formation sociale. De la même manière qu'il y a des gens qui fétichisent les formations sociales des structures familiales sans comprendre ce qui les a créées, tout le monde en ce moment délire, on va en reparler sur Israël, sur le millénarisme et l'eschatologie du messianisme terminal. Mais ça n'a de sens que par rapport à la crise du capital, que par rapport à la crise de la valeur d'échange, et surtout par le délire incontrôlable qui découle de l'auto-abolition de la formation sociale de la valeur d'échange du judaïsme dans sa longue histoire. Donc si on lit la question juive et si on lit Abraham Léon et la conception matérialiste de la question juive, on comprend qu'il n'y a pas le judaïsme, il y a le judaïsme du comptoir commercial. De la même manière, il n'y a pas la razzia caravanière. Il y a la razzia caravanière qui se structure à un moment donné et qui crée la razzia caravanière coranique qui crée le djihad. C'est-à-dire que les aliénations religieuses n'ont pas de scénario autonome, n'ont pas de scénario autonome. Elles sont l'expression d'une formation sociale à un moment donné, dans un cadre historique donné, qui vient donner le langage, le hiéroglyphe adéquat à l'aliénation de la formation sociale. Les aborigènes ont un hiéroglyphe aliénatoire. Les coraniques et les judaïques ont un hiéroglyphe aliénatoire. Les Mayas avaient un hiéroglyphe aliénatoire. Je peux pas mettre les Mayas en Palestine, je peux pas mettre les Aztèques au Groenland, et je peux pas mettre les Esquimaux à Ur en Chaldée quand naît le contrat abrahamique. Donc dialectiser la formation sociale, dialectiser la loi de nécessité et comprendre toute cette réalité historique. S'il n'y a pas le génitif, s'il n'y a pas le génitif, je ne comprends rien. L'ingénierie sociale de la valeur d'échange, le judaïsme de la valeur d'échange, le coranisme de la valeur d'échange, et contre les églises de la valeur d'échange, qu'elles soient byzantines ou qu'elles soient catholiques, le message radical du Christ révolutionnaire dans l'abolition de l'argent et dans l'incarnation du divin fait homme.
Vous voulez repartir sur Israël?
Ben, on peut parler de alors dans notre dernière émission, on avait posé le préambule dans la lutte actuelle des deux formations de l'État profond, la crise ukrainienne, la crise à Gaza, qui sont deux matérialisations de ce que l'administration Trump est en train de mettre en chantier. Et est en train de mettre en chantier, surtout en Ukraine, en conflit total avec la partie transatlantique qui est restée démocratique. Alors c'est faut bien voir que la transmutation trumpienne, on l'a dit dans la dernière émission à propos des notes sur Wagner, est un retour à l'espace industriel de la valeur d'usage, avec une nécessité de relancer la dynamique industrielle d'une Amérique qui était relativement affaiblie en décomposition. Donc c'est le retour à un essor industriel pour une géopolitique du redéploiement. Et ça, c'est ce qu'on a dit en introduction, c'est en conflit total avec la partie de l'État profond qui a été vaincue électoralement, mais qui n'a pas été vaincue dans les profondeurs de l'État profond. C'est-à-dire que faut pas s'imaginer que parce que Trump est élu, l'État profond, tendance industrielle qu'il représente, a terrassé la tendance financière qu'il a battue aux élections. Passé un certain laps de temps, les réadaptations se mettent en mouvement, et il y a un Pentagone dans le Pentagone, une CIA dans la CIA, une NSA dans la NSA, et il y a un OTAN dans l'OTAN. Tout se redécompose en deux. Il a certes le pouvoir du bureau ovale à la Maison-Blanche, mais toutes les structures de l'État profond sont scindées en deux. Une partie qui continue à vouloir activer la stratégie de la valeur d'échange financière et une partie qui veut repartir sur une valeur d'usage industriel. Bon, lui, pour le moment, il a la dominante du continent américain. Mais le continent européen, dans sa dimension bruxelloise, il est resté à l'ancien modèle de l'état profond de la valeur d'échange. Il y a donc une guerre à mort, et c'est ce qui explique tous les délires de l'Élysée et de l'Angleterre autour du phénomène ukrainiste. Le phénomène, c'est pas le phénomène ukrainiste le problème, c'est qu'il y a la réalité ukrainiste, c'est une matérialité tangible dans le champ de l'état visible. Mais la réalité objective, c'est qu'il y a une lutte à mort entre les deux états profonds pentagoniques qui créent l'état transatlantique. L'État transatlantique qu'avait tué Moreau, l'État transatlantique qu'avait mis en marche la chute du Shah, l'État transatlantique qu'avait liquidé Saddam Hussein, aujourd'hui il est scindé en deux. D'un côté, il y a une partie qui veut arrêter les frais militaires de la décomposition interminable pour relancer un appareil industriel qui aurait du sens, et de l'autre côté, la sphère du chimérique qui veut continuer la désagrégation qui a été entamée du temps de Clinton, d'Obama, qui ont reçu l'héritage Bush. Donc, c'est ça le conflit. Et alors aujourd'hui, la crise ukrainienne, comme la crise à Gaza, elle doit être interprétée comme manifestation tangible au niveau du phénoménal de cette crise interne au sein de l'État profond.
Bon, vas-y, Maurice.
Non, non, vas-y, vas-y.
Gazan en avait parlé, on avait fait une émission dédiée autour du un petit peu après le 7 octobre, où on expliquait déjà ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que les contradictions internes, on renvoie les gens à cette émission, mais les contradictions internes à la réalité israélienne font qu'il y a une nécessité pour faire perdurer une unité dans le séparé et l'explosif, de se maintenir dans une guerre sans fin. Et après, il y a les histoires d'état profond, de constitution, de maintien de l'état profond avec les extrémistes ultra-orthodoxes, etc., qui fait que eux désirent continuer à maltraiter Gaza. Et pour réintégrer le gouvernement, et c'est des jeux d'appareil, mais qui ne changent strictement rien, qui sont en plus complètement secondaires par rapport à ce dont vous parlez par rapport à l'Ukraine, que le point central, et qui ne changent strictement rien sur le fait que Israël, compte tenu de ses contradictions internes, ne peut pas sortir de l'implosion, pas du tout du rapport au Hamas, etc., qui n'est qu'un appareillage israélien.
Alors, il se passe des choses intéressantes. Je dis souvent, allez lire la presse israélienne, elle est intéressante. Là, je lisais ce matin à Haaretz. Il y a dans la presse israélienne toute une série de choses qui sortent, qui ne sortent jamais dans la presse européenne. Aussi bien la remise en question de la vérité officielle du 7 octobre et tout ce qui s'ensuit. Et là, on a des centaines de réservistes. Des centaines de réservistes qui menacent de ne pas y aller si les frappes sur Gaza continuent et que la négociation avec le Hamas n'aboutit pas rapidement à la libération des otages. Donc on a une tension, et c'est là où il faut analyser le truc d'un point de vue dialectique. Quand il y a eu le 7 octobre, on avait parlé déjà d'annonces et de communiqués d'officiers supérieurs ou bien de responsables du Shin Bet ou du Mossad qui disaient de toute façon, la société israélienne n'est pas viable et à 10 ans, la société n'est pas viable. Je me souviens, on avait signalé une communication d'un membre supérieur du Shin Bet qui disait à 10 ans, la société israélienne explosera, non pas tant pour des conflits extérieurs que pour l'érosion intérieure interminable et inévitable. Et le 7 octobre, qui a donc été organisé avec l'aval de Netanyahou, puisqu'on en avait parlé, tout le monde était au courant, les Égyptiens l'avaient prévenu, les services l'avaient prévenu, et tout ça, c'est dans la presse israélienne. Donc c'est pour ça qu'il y a un mécontentement qui monte, qui monte, qui monte, parce qu'il y a toute une partie de la population israélienne qui comprend qu'il y a une gigantesque embrouille, il y a une gigantesque embrouille, et on est passé à un seuil dialectique supérieur. Là, on est au cœur de la raison dans l'histoire. C'est-à-dire que le mécontentement qui traversait la société israélienne au moment où il y avait tous ces conflits autour de la Cour suprême, qui avait donc nécessité nécessité le grand spectacle du 7 octobre, il est pire aujourd'hui. Il est pire. Donc, la guerre sans fin, vous avez raison, c'est la guerre sans fin. Et dès que les opérations militaires se calment, la crise de la société israélienne, qui ne s'unifie que par la guerre, se réactive, mais toujours à un seuil dialectique supérieur. On retombe sur l'introduction de 1857, les seuils dialectiques. À chaque fois que la société israélienne semble retomber sur ses pieds parce qu'elle semble avoir résolu les problématiques militaires, la décomposition civile en interne s'accélère, s'accélère, s'accélère. Et donc, on a aujourd'hui une décomposition totale. Alors, c'est pareil, le retour du théologisme, le retour de l'eschatologie, le retour du messianisme, mais c'est le retour de la crise de la valeur d'échange à l'état universel. Il n'y avait pas ce millénarisme et cette eschatologie absolument hystérique dans les années 50 ou dans les années 60. C'est la configuration de la crise qui fait revenir à l'archétype premier du contrat abrahamique dans toute la démesure du suprématisme. Le suprématisme, il n'existe pas chez les Esquimaux. Il est lié au développement de la valeur d'échange dans des comptoirs commerciaux exclusivistes qui ont hiérarchisé l'humanité autour du dieu valeur d'échange que Marx appelle le dieu jaloux de la valeur d'échange du contrat abrahamique. Donc l'eschatologie messianique, elle sort pas du chapeau d'un rabbin. Elle est liée à toute l'historicité du contrat abrahamique de la valeur d'échange. Et donc aujourd'hui, ce retour absolument ultra concentré des extrémistes religieux, il vient marquer non pas le retour d'une eschatologie, mais il vient marquer l'auto-invalidation de l'eschatologie suprématiste de la valeur d'échange du contrat abrahamique. C'est pas le signe d'une folie qui va faire vivre autre chose, c'est le signe d'une hystérie qui vient dire le procès d'autocaducité de la valeur d'échange dans le cadre d'une formation sociale qui n'est pas reproductible, qui n'est pas vivable. La société israélienne ne peut pas vivre. Alors, le royaume de Jérusalem avait vécu un siècle, je crois qu'on est à 75 ans de l'État d'Israël, mais tous les responsables du Shin Bet et du Mossad qui disent on va dans le mur, on va dans le mur, cette société n'est plus vivable, elle se décompose. À partir de là, c'est parce qu'elle se décompose dans une crise sociale de la formation sociale que sa seule issue, c'est l'hystérie de la guerre sans fin messianique. Mais c'est pas lié à une théologie, c'est lié à une théologie de la formation sociale en décomposition. Et là encore, faut dialectiser. C'est comme l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale n'existe pas. Le millénarisme eschatologique n'existe pas. Il faut lui trouver le génitif qui lui correspond dans la dialectique des forces productives. Mais alors là, ça nous remet en marche les contradictions de l'État profond américain. Il y a deux AIPAC, l'association de liaison de tous les intérêts israéliens aux États-Unis. L'AIPAC, c'est comme le Mossad, c'est comme la CIA. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une AIPAC dans l'AIPAC, tout se dédouble en fonction de l'état profond transatlantique qu'est l'état transatlantique de la mondialité stratégique américaine. Au Shin Bet, il y a deux Shin Bet. Au Mossad, il y a deux Mossad, parce que tout se décompose dans la crise. Vous avez toute une série d'officiers supérieurs qui s'écharpent avec d'autres officiers supérieurs. Vous avez des types qui ont mis leur démission dans la balance. Vous avez des types qui demandent la démission de Netanyahou. Donc on va vers une gigantesque implosion de la société israélienne. Et c'est ce qui explique que, puisqu'il y a un Pentagone dans le Pentagone, un Mossad dans le Mossad, une CIA dans la CIA, la partie de l'État profond qui a voulu arrêter les frais à un moment donné, elle a encore, en doublon, en Janus bifrons antinomique, une partie de l'État profond qui a relancé les opérations sur les Houthis, pardon, et sur Gaza. Rien n'est fixe. L'État profond est une dialectique contradictoire, puisqu'il y a deux États profonds. Il y a l'État profond du retour de la valeur d'usage et il y a l'État profond du retour à la valeur d'échange. Et ça positionne des conflictualités énormes. Au moment où Trump positionne avec Poutine un accord sur le non-bombardement des emplacements énergétiques, les Anglais et les réseaux de l'OTAN contre les autres réseaux de l'OTAN organisent des tirs de drone de drones sur les emplacements énergétiques russes. Donc il faut comprendre que tout est double. Il y a un état profond qui est en conflit interne dans ces deux formulations. La formulation républicaine trumpiste de retour à la valeur d'usage et la formulation du crédit chimérique effréné de la dislocation complète de l'espace-monde. Et on comprend bien là ce que fait Trump. La rencontre de Riyad était hyper importante. On aurait pu s'imaginer que la rencontre de Riyad aurait commencé par des nécessités stratégiques sur les territoires, sur les armements. Ah, c'est pas du tout ça. Le préambule de la rencontre de Riyad a positionné des partenariats économiques entre Washington et Moscou. Le retour à la valeur d'usage. La préoccupation première, c'est le retour à la valeur d'usage pour mettre en marche une transmutation industrielle de l'économie américaine. Il y a une césure dans l'État transatlantique, et cette césure dans l'État transatlantique, elle est claire. D'un côté, on a l'Europe folle de Bruxelles qui continue le crédit chimérique dans des formes délirantes, mais qui va se casser la gueule parce qu'elle n'a pas les moyens militaires de son délire, même si elle a encore quelques moyens chimériques d'organiser son crédit chimérique. Puis on a de l'autre côté, toute la masse industrielle américaine qui veut se mettre en marche dans un partenariat avec Poutine. Et on commence déjà à parler du contre-rappallo. Je ne sais pas si vous avez suivi, on parle de l'Arctique. On parle de l'Arctique et on parle même d'un contre-rappallo qui serait absolument subtil. Les Américains mettraient en marche une rénovation à leurs frais de Nord Stream 2 et Nord Stream 2 marcherait sous contrôle américain et le pétrole ou le gaz qui arriverait en Europe produirait une dîme, on retourne à la rente foncière, il y aurait une dîme pour les Américains sur leur retour. Donc, quand on a parlé de rappallo depuis des années, qu'on en parle depuis les années 80 dans la mouvance radicale des groupes de l'époque, on n'avait pas simplement le flair de l'intelligence stratégique, on avait simplement, avec humilité et méthode, la compréhension dialectique de la prévision historique. On y est. Rappallo contre
C'est intéressant parce
rappallo.
que le rappallo, ancienne formule, quand on regarde donc vraiment rappallo, Paris, Berlin, Moscou, il y a une continuité territoriale. On comprend bien si ça a réussi, la puissance indépassable que ça aurait. Mais si on retourne la carte et qu'on la prend par le nord, et on comprend mieux pourquoi il n'a cessé de parler du Groenland, du Canada comme 51e État américain, parce que on le regarde donc par en haut, on a l'Alaska, le Canada, le 51e État américain, le Groenland, le 52e peut-être, et puis toute la Russie avec laquelle elle serait sur un rappallo. Donc il y aurait vraiment une continuité logique qui produirait une puissance qui neutraliserait totalement l'Europe. À ceci près qu'il faut toujours, c'est dans le titre qu'on a mis aujourd'hui sur la décomposition, et c'est comme avec la question de l'état profond. C'est un rappallo ou un contre-rappallo dans le cadre général d'une crise suraccélérée. Parce qu'on parle de la contradiction de l'état profond américain, alors qu'il était relativement, en tout cas, mais largement homogène depuis 1945. Cette contradiction, elle pourrait se faire penser que, bon, ben, on va soit avoir un échec de la nouveauté et l'ancien va revenir, soit le nouveau va gagner. Mais justement, dans le cadre de la décomposition généralisée, et on le voit très bien en Israël, le 11 septembre de Bush produit une recomposition, et Bush, il n'a pas de problème. Là, sans arrêt, Netanyahou est obligé, pour continuer le bordel, de remettre de l'huile sur le feu de ce qui va détruire Israël. Parce que le délire des otages, tout le monde voit bien, en Israël, les gens se rendent bien compte que, comme il ne cesse de dire depuis le début, si le Hamas libère les otages, tout s'arrête. Il va de soi qu'il faut que le Hamas ne libère pas les otages. Donc, ils sont sans arrêt à remettre du feu pour que ça n'ait pas lieu. C'est intenable. On voit que c'est un appareillage, contrairement au 11 septembre, un appareillage dans une temporalité. Alors, c'est pas la puissance américaine, mais dans une temporalité de crise suraccélérée. Et c'est pareil avec Rapallo. C'est pas, on a un doute temporaire et puis quelque chose va s'organiser dans un sens ou dans l'autre et puis on est reparti pour 50 ans. Cette contradiction, on n'en sortira plus d'une certaine façon, y compris dans les états profonds.
Mais moi, j'engage les gens qui nous écoutent à aller lire régulièrement la presse israélienne. Parce que comme c'est un lieu majeur de l'intensité crisique du capital et de l'impossibilité de la reproduction de la formation sociale, la presse, elle lâche en permanence des trucs qu'on n'a jamais dans la presse française. Et les clivages sont tels qu'il y a effectivement des reportages qui parlent de risques de guerre civile. Alors, pas une guerre civile de classe révolutionnaire, mais une guerre civile de décomposition complète. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous imaginez des centaines de réservistes qui disent on ne va pas y aller. On ne va pas y aller. On a franchi un seuil, mais chaque fois, on franchit un seuil. Et je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le nucléaire. Là encore, dans l'état profond, on travaille par médiation successive. C'est ça la dialectique du fétichisme de la marchandise et son secret. L'empire écologique allemand n'a pas de scénario autonome. À travers le WWF, Greenpeace, etc., c'est une construction américaine de la CIA et du Pentagone, de l'ensemble des armatures de l'État profond au cours des années 60, 70, pour casser le nucléaire français, puis casser l'industrie française. C'est-à-dire que la religion écologique, la secte écologique des bobos paumés, des couches moyennes décomposées de l'urbanisme, de la capitalisation contemporaine, a été totalement cornaquée par l'empire américain de la diffusion du mensonge de l'État profond. Et tous les groupes verts sont le lieu d'incarnation centrale de la décomposition industrielle pour casser l'héritage gaullo-pompidolien. Et à la Commission de Bruxelles, les écolos, c'est effectivement le sous-marin de l'État transatlantique, dans sa forme industrielle ou dans sa forme financière, pour casser l'industrie européenne, l'industrie française. Et donc, c'est un missile anti-Rapallo envoyé contre l'industrie française. Alors, on a la totale avec les écolos. On a la déstructuration industrielle, on a la destruction sociale, on a la destruction stratégique. Et c'est là où il faut. Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'immigration parce que ça fait partie des mêmes stratégies du capital. Mais il faut comprendre la révolution arc-en-ciel et le LGBTisme. On a à plusieurs reprises parlé de la lettre de Ulrich, de la lettre de Engels sur Ulrich, dont non seulement le LGBTisme est effectivement une idéologie contre-révolutionnaire du capital, mais qui ne date pas d'hier, puisque Engels et Marx la critiquent dans les années 1860. C'est déjà dans l'armature sociale de l'organisation historique des forces productives quelque chose qui travaille dans la domination formelle supérieure. C'est donc quelque chose qui va éclater dans la domination réelle. Mais le LGBTisme, le ulrichisme, correspond à la domination réelle dans sa phase supérieure, dans le crédit chimérique total. Qu'est-ce que le crédit chimérique total? C'est la dématérialisation monétaire, le livre 3, la dématérialisation monétaire. On l'a souvent dit quand on parle de l'état profond, personne n'a organisé la trahison de 73 sur la monnaie. La réalité objective de la loi de 73, c'est l'état profond qui est impulsé par la dialectique de l'immanence, du crédit chimérique, du crédit fictif et de l'anticipation de plus-value forcenée. C'est pareil pour le LGBTisme. Le LGBTisme est une dématérialisation de l'homme, adéquate à la dématérialisation monétaire et adéquate à la dématérialisation de l'équivalence centrale fétichiste. Si je dématérialise l'équivalence centrale fétichiste, je dois matérialiser l'homme dans une dématérialisation centrale fétichiste. Et qu'est-ce qui fait la révolution? Qu'est-ce qui fait l'être générique? C'est l'homme masculin, la femme féminine, dans une relation érotique, de complémentarité révolutionnaire, où l'homme retrouve la femme, où la femme retrouve l'homme, et la femme est la dimension supérieure de l'homme dans cette relation où la relation la plus naturelle de l'homme à l'homme, c'est la relation de l'homme à la femme. C'est pour ça que Marx et Engels font une critique radicale de Ulrich. Donc, abattre le manifeste communiste, c'est abattre la réalité objective de l'érotisme radical qui lie l'homme à la femme dans une universalité de combat et non pas dans un clientélisme névrotique, narcissique de reproduction du fétichisme. Le LGBTisme est un clientélisme de reproduction fétichiste adéquate à la domination réelle supérieure du fétichisme de la marchandise, tout entier absorbé dans la démesure éléphantiasique du crédit interminable. Si j'ai un retour à la valeur d'usage, il est obligé de contrecarrer le LGBTisme, qui est une antithèse au retour à la valeur d'usage, puisqu'il est la paranoïa de la valeur d'échange. Il y a donc un conflit total entre la réalité objective d'une Europe qui ferait son rapallo et le LGBTisme et l'écologisme. Donc, la mystification écologiste, la mystification LGBTiste, la révolution arc-en-ciel du capital, c'est un travail de sape pour bousiller l'héritage gaulo-pompidolien et empêcher rapallo, puisqu'on part dans un crédit fictif, dans la décroissance, dans la déstructuration de l'agriculture, dans la déstructuration de l'industrie et dans la destruction de l'homme historique. Alors, destruction de l'homme historique de la France gaulo-pompidolienne, mais destruction historique de l'homme communiste qui renverse dialectiquement la France gaulo-pompidolienne, puisque dans le grand délire fluidique du LGBTisme, il n'y a pas l'abolition du salariat et le manifeste communiste, il y a l'autogestion de la misère affective dans la dimension hystérique du spectacle narcissique de la valeur d'échange. Donc c'est pour ça qu'il y a un conflit autour du LGBTisme aujourd'hui aux États-Unis, puisque si les États-Unis repartent sur la valeur d'usage, ils sont donc obligés de mettre à bas le LGBTisme. Et comme l'Europe de Bruxelles est à fond dans la poursuite effrénée de la valeur d'échange, elle est à fond dans la poursuite effrénée du LGBTisme, et on en parlera tout à l'heure, de l'immigrationnisme. Parce qu'à partir du moment où il y a un retour à la valeur d'usage traditionnelle, il n'y a plus besoin de l'immigrationnisme liquide, de la décomposition de la formation sociale traditionnelle, il faut au contraire retourner à la formation traditionnelle de la valeur d'usage. Donc, ni LGBTisme, ni immigrationnisme dans le retour trumpiste à la valeur d'usage. Par contre, LGBTisme et immigrationnisme effrénés en Europe, les campagnes européennes sur le voile, sur l'immigration, SOS Méditerranée, bon, tout le tam-tam de la marchandise vedette, l'immigré. Donc faut comprendre cette dialectique-là. Mais on ne peut pas la comprendre si on ne fait pas retour aux notes sur Wagner, si on ne fait pas retour à la section 1 sur le fétichisme de la marchandise et son secret, et sur capital fictif, capital liquide, capital réel, capital matériel.
Sur cette contradiction de la valeur d'usage, valeur d'échange, on l'a dit la dernière, on l'avait déjà précisé la dernière fois, mais c'est bien la marchandise, c'est bien une unité dialectique où la valeur d'usage présuppose la valeur d'échange présuppose la valeur d'usage. L'un n'existe pas sans l'autre. C'est pour ça que on redit que quand on parle de valeur d'usage, il y a la valeur d'échange avec et inversement. Pour en revenir à ce que vous évoquiez là sur l'écologisme, le wokisme, et sur ce qu'a dit Michel aussi sur un technicien qui est capable de décrire techniquement de façon très précise dans son domaine de spécialisation, mais qui ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à une Allemagne, mais sans voir que c'est l'Allemagne qui a été vassalisé par les États-Unis. On retrouve ça aussi maintenant. On a eu dernièrement au niveau de la donc dans la Commission européenne qui continue sur l'état profond transatlantique de la valeur d'échange, qui continue dans cette lignée-là. Et on a eu des prises de décision. Alors, ce qui est rigolo, c'est de je lisais un article, il trouvait ça maladroit de la part de nos dirigeants européens, le fait que la Commission européenne anticipe des taxes sur le bourbon qui viennent des États-Unis et que ça déclencherait quelque chose qui serait nocif, mais pas pour l'Europe entière, ça nuirait essentiellement à l'agriculture française. Et il dit, ils sont un peu maladroits quand même, parce qu'il y a eu plusieurs fois des agissements de la Commission européenne qui, en retour, nuisent à l'Europe, mais surtout, toujours, à la France, et on en revient parce que toujours à cette logique-là, volonté de mondialité américaine d'affaiblir l'Europe, mais surtout d'affaiblir spécifiquement la France. Et il y a quelques mois, on avait eu des choses qui sont un peu similaires. Alors là, c'était directement l'état profond transatlantique via la voix de notre président de la République actuelle qui avait déclenché alors c'est pas présenté comme ça, mais les mouvements qu'il y a eu, qui perdure toujours, mais qui a eu de façon intense en Nouvelle-Calédonie, c'est parti d'une décision française qui paraît aberrante et qui génère une réaction. Et on peut dire c'est une maladresse, mais il n'y a pas de maladresse. Il y a une réalité, mais toujours pareil, dans cet état invisible et dans la contradiction interne dans les forces en présence de la mondialité américaine, de la mondialité française, de détruire d'affaiblir le plus possible la France dans sa configuration maritime. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, qui sont décrites ou par inconnaissance ou par bêtise, mais dans tous les cas, c'est toujours par une méconnaissance de ce dont on est en train de parler, ce qu'on met en avant, et à savoir l'état visible qui surdétermine toujours tout cela.
Et tout ça continue parce qu'il va de soi que tout bouge et aux États-Unis, on va avoir une élection dans même pas 2 ans maintenant pour les midterms et que le clan transatlantique américain en Europe espère pouvoir retrouver une cohérence globale. Si ça n'a pas lieu, si ça bouge plus aux États-Unis, ça périclitera en Europe. Mais il espère garder une cohérence globale. Et au niveau des maladresses, j'ai un truc à tourner. Vous parlez de l'écologie sur la vidéo de Dominique Voynet. Tous les pseudo-critiques Internet se scandalisent donc de ce qu'a fait la personne Dominique Voynet, qui nous raconte en plus. Ça en est comique. Elle explique que elle a réussi à embobiner, à l'époque c'était Jospin, sous prétexte que la France allait être isolée. C'est ça qu'elle explique, c'est que il y avait que la France qui voulait garder le nucléaire dans le package des énergies dites vertes. Donc la France allait être isolée. Donc on nous explique que l'État français, pour ne pas être isolé, est prêt à détruire carrément sa filière ultra stratégique depuis des dizaines d'années. On imagine De Gaulle tout balancer pour ne pas être isolé. Et il faut penser à ce qu'a dit Lombard, le ministre de l'économie, récemment. Il a dit qu'il fallait que les entreprises acceptent pour l'écologie, pour le climat exactement, de rogner sur leur taux de profit. Il le dit comme ça. Ça, c'est l'état profond qui parle. C'est pas, on vit dans un monde qui a une logique totale. C'est la logique de la marchandise. La logique de la marchandise ne dit pas via des ministres, la marchandise, il faut arrêter, le profit, il faut arrêter. Tout ça, c'est l'état profond américain qui continue, américain, ancienne formule, hein, dans la contradiction qu'on explique depuis la dernière émission, ancienne formule. Qui a sa place au gouvernement français encore actuellement, parce que tout ça n'est pas joué. Par contre, alors on ne voit pas, à part Fillon un peu, Guénon un peu, mais on ne voit pas, contrairement à ce que vous disiez sur la presse israélienne, par exemple, où on sent que ça boue et la contradiction est présente. On la voit aux États-Unis entre l'opposition Trump et ce qui reste du monde d'avant, qui n'est pas mort, et l'opposition est présente. En France, à part une ou deux petites voix par-ci par-là, on voit que l'homogénéité de l'avant est vraiment toujours là. Ça n'a pas bougé encore.
On le
Ça,
voit
c'est
bien
le
même dans les contradictions qu'il y a. On parle du Groenland et le Groenland commande des F-35. Et on peut se dire, mais tout ça peut paraître contradictoire si on prétend s'opposer aux États-Unis. En même temps, on commande des armes et tout ça. Il y a tout un tas de contradictions dans lesquelles qui deviennent visibles, mais qui sont la manifestation de contradictions qui sont dans cette dialectique valeur d'usage, valeur d'échange, dans ces contradictions profondes.
Moi, si vous voulez, j'ai connu les années 60, j'ai connu les années 60, J'ai connu les années 70 et même adolescent, bon, je lisais La Presse, je lisais Combat, je lisais Libération, je lisais Le Figaro, je lisais tout ce qui sortait parce que j'étais passionné. Il y avait encore une ouverture à l'époque pompidolienne. Mais de la grande haine de soi que l'empire américain du gauchisme culturel a produit en France dans la longue durée, et encore plus après le gauchisme culturel post-68, il y a une telle détestation de l'histoire classique pour annihiler un retour à Rapallo, et il y a une telle détestation de cette histoire classique qui ne peut pas se renverser en histoire révolutionnaire, que la pensée critique radicale, elle est complètement asphyxiée par un totalitarisme médiatique absolument fou. Un totalitarisme médiatique qui reproduit à l'infini le spectacle de la marchandise sur les plateaux télé, à l'Assemblée nationale, dans l'ensemble des structures, qu'elles soient sociales, politiques, syndicales. Là, sur l'Ukraine, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde est ukrainiste. De l'AFA, à l'Action française, tout le monde défend l'Ukraine. Personne n'a lu un bouquin sur l'Ukraine. Personne n'a analysé la réalité historique de ce qu'est le Donbass. La nouvelle Gazette Rhénane sur les peuples historiques et sur les peuples non historiques, personne ne l'a jamais lu. C'est-à-dire que tout le monde a un état d'esprit, tout le monde a un imaginaire, tout le monde a une opinion qui est d'ailleurs toujours la même, qui est toujours la même. Donc et vous regardez les généraux de studio, c'est absolument délirant, les généraux de studio. On dirait des débiles profonds. Des débiles profonds, ils vous montrent des cartes, ils comprennent même pas ce qu'ils racontent. Je veux dire, on est à des années-lumière de l'anti-Turing et de Engels. Mais tout ça, c'est l'héritage du débarquement de 42. 42, 44, Servan-Schreiber, la guerre d'Algérie, le lessivage des esprits. L'imposture décoloniale, l'imposture décoloniale, encore et toujours. C'est-à-dire que vous avez un journaliste abruti qui vous parle des enfumades en Algérie, mais il sait pas ou il veut pas savoir que pendant les guerres de Vendée, on a fait 1000 fois ce qu'on a fait en Algérie. Mais ça passe, puisqu'on est dans la culture. Le degré supérieur de la schizophrénie mégapolitaine du capital, le degré supérieur, on l'a dit, c'est l'historicide. Plus personne ne sait rien. Plus personne ne sait rien. Donc vous avez des généraux de studio qui vous parlent de l'Ukraine orientale, ils savent même pas qu'elle est russophone, ils connaissent pas le Donbass. Alors tout le monde dit Kharkiv, Kharkiv, Kharkiv. Kharkiv est une ville russe qui s'est toujours appelée Kharkov. Mais tout est délirant. Et alors vous voyez des journalistes idiotes là qui sont là à brosser les pompes du général de studio, puis pendant des heures on délire, on délire, on délire. Et c'est pareil, on parlait du Christ révolutionnaire, un truc qui est incroyable. Mais ça montre le degré de détestation de l'histoire classique, parce que quand l'histoire classique se retourne en histoire de dialectique révolutionnaire, elle aboutit au manifeste communiste et elle aboutit à l'incarnation du Christ radical. L'affaire d'Émile, le petit Émile, on nous a raconté au moins 500 000 fois, 500 000 fois, sur tous les plateaux télé de l'abrutissement médiatique de la réification, que la famille était catho. Que la famille était catho. Et en même temps, on a le procès de Mounir qui a brûlé vive Chahinez à Mérignac. Mais là, on ne nous a pas dit il a brûlé vive Chahinez. Il y a quand même dans la culture musulmane un rapport à la femme qui est problématique. Donc, Émile, on a eu droit à 500 000 fois la catholicité, mais Chahinez, on n'a pas eu une seule fois, bah oui, il avait un rapport particulier aux femmes, parce que dans le cadre historique de la formation sociale en question, le rapport aux femmes, il est pas très émancipateur. Bon, mais ça, c'est très intéressant, parce que même, on l'a dit 500 fois, même si l'Église catholique est contre-révolutionnaire, comme toutes les Églises, même si elle a enfermé le message révolutionnaire du Christ dans des segmentations réactionnaires, la puissance révolutionnaire du Christ est telle qu'elle suinte au sein même de son emprisonnement dans les églises. Donc ce n'est pas la catholicité qui est un problème, c'est le Christ. Mais on ne peut pas attaquer le Christ autrement qu'à travers la catholicité. Donc d'un côté, Ah oui, ils étaient catholiques, ils étaient catholiques. Et puis de l'autre côté, bah, non, non, ils n'étaient pas musulmans, ils étaient bouddhistes martiens. Ils étaient bouddhistes martiens. Mais donc, vous voyez, tous ces détails-là, ça montre comment on détruit la formation sociale
C'est
et comment
comme
on rend impossible la culture.
ça me fait penser à l'affaire de Bétarame.
Pareil.
C'est par définition, dans le monde du fétichisme de la marchandise et de la sexualité qui en découle, la pédophilie est ultra massive. Et du fait qu'elle soit ultra massive, il va de soi que le pédophile, il tend à aller là où il y aura des enfants. Donc on n'a même pas besoin de chercher pour être sûr préalablement qu'il y en a plein, toutes les zones possibles où il y a des enfants, dans les associations sportives, dans les lycées, les collèges publics ou comme privés, etc. Partout. Il y en a forcément partout.
Non, mais
Ah, et...
Bétharram, en plus, ça rentrait dans un jeu de déstabilisation de Beyrouth, parce qu'il y
Et en
avait toute
plus.
une série dans le cadre de l'état profond de manipulation. Mais vous avez des écoles coraniques et des yeshivas où il se passe exactement la même chose. Mais ça fait deux lignes. Ça fait deux lignes. Parce qu'il faut bien comprendre que quand Vincent Peillon vous parle de la religion maçonnique du capital et de sa détestation de l'Église, ce n'est pas une détestation de l'Église parce qu'il y a un haut clergé contre-révolutionnaire. C'est parce que dans toute l'histoire des paysanneries, à côté du haut clergé réactionnaire, à la base des églises et du tocsin incendiaire, et la relation au bas clergé et à la plèbe insurrectionnelle, il y avait un contenu révolutionnaire du Christ radical. Ce qui emmerde ces gens-là, c'est pas l'Église, c'est le contenu radical du Christ qui est derrière. C'est ça le problème. Alors là encore, médiation, dialectique, le fétichisme de la marchandise et son secret. Pourquoi on bouffe du curé à l'infini? C'est pas le curé qui est problématique, c'est le Christ radical. On peut dire des curés que c'est des salauds, mais on peut pas dire que le Christ est un salaud. Donc pour dire qu'il est un salaud alors qu'il l'est pas, on bouffe du curé et c'est un moyen de repousser. C'est-à-dire que la fédération de la libre pensée, c'est que des ménopausés androïdes complètement. Enfin, il y a 10 ou 15 mecs par département subventionnés. Donc, ils trouvent ça merveilleux. Ils trouvent ça merveilleux qu'on aille à la rupture du jeûne à Ramadan, mais ils trouvent ça complètement délirant qu'il y ait une crèche dans une église, enfin dans une mairie. Moi, mon oncle était très radical, presque révolutionnaire. Il était centenier. Il était centenier. Il faisait des centons en tant que prolétaire. Il faisait des centons parce que ça fait partie de la culture provençale. Et les ouvriers en Provence, ils faisaient des centons ou ils achetaient des centons. Donc, la libre pensée, c'est comme toute la gauche du capital. C'est la programmation de la révolution arc-en-ciel immigrationniste du capital. L'abolition du salariat, ça les fait chier. Le Christ radical, ça les fait chier. Par contre, le voile, ça les fait pas chier. Parce qu'avec le voile, il n'y aura jamais l'abolition du salariat. Donc là encore, on en revient toujours à la frontière de classe. La frontière de classe. Tout ce qui se passe dans l'articulation de l'État profond, qui remonte d'ailleurs au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État, parce que ce n'est pas le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui rend des décisions, même si dans toutes les articulations de l'État profond, il y a des obligations de nécessité. C'est l'État invisible dans sa marche en avant de la mystification. Quand Roland Dumas a fait valider les comptes de Balladur et les comptes de Chirac qui ne devaient pas être validés, c'est pas simplement parce que Roland Dumas a voulu éviter un clash social généralisé. C'est parce que l'État invisible, dans sa marche en avant de la mystification politique, imposait à Roland Dumas que soient validés les comptes de Balladur et de Chirac. Donc c'est jamais l'État profond qui décide. L'État profond, sous la pression de l'État invisible, acte, actualise. Et toute la politique immigrationniste qui est voulue par l'État profond, on l'a dit à plusieurs reprises, regroupement familial au moment de la loi Veil, articulation de tous les cénacles patronaux, articulation de toutes les dominations des réseaux de l'État profond, c'est voulu par l'immanence du grand remplacement tel qu'il est posé par Marx dans la 7e section, chapitre 25. parce qu'il y a un enjeu radical de lutte de classe. Et alors, c'est là où il faut en venir. Il faut en venir à la différenciation entre, dans le champ de l'État transatlantique mondial de l'hégémonie américaine, la coupure entre la sphère américaine et la coupure avec la sphère européenne. Le problème de l'immigration n'est pas le même aux États-Unis qu'en Europe. Nous, nous savons, dans l'histoire justement dialectique des forces productives et des formations sociales, que l'ouvrier irlandais, l'ouvrier polonais, l'ouvrier italien, quand il devient américain, il perd pas tout lien avec son histoire européenne, mais il perd le lien de combativité radicale qui a fait effectivement de l'Europe et de Paris l'épicentre de la révolution mondiale et du manifeste communiste. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette formule de Marx, elle est décisive pour comprendre la dialectique de la formation sociale. Le poids des générations passées pèse d'un lourd fardeau sur les générations présentes. Le lourd fardeau, c'est à la fois la négativité aliénatoire et c'est à la fois la positivité émancipatoire. Mais l'héritage patrimonial, il est inscrit dans un sol historique qui s'appelle la formation sociale des générations successives. La grève sauvage radicale, c'est en 68 en France. Les émeutes ouvrières à Détroit, elles n'ont pas la radicalité de la grève sauvage en France. Et quand il y a effectivement des mouvements sociaux, des tumultes sociaux aux États-Unis, ils n'ont jamais la puissance qu'a pu avoir le mouvement des Gilets jaunes. Il y a donc dans l'histoire des peuples historiques et des peuples non historiques. Il faut que les gens lisent la Gazette Rhénane. Dans la Gazette Rhénane, il y a un texte que j'ai d'ailleurs repris dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, où Engels, dans sa correspondance avec Marx, puis ensuite dans le texte lui-même de la Gazette Rhénane, dit: le mouvement communiste n'est pas une fraternité dans le vague. C'est pas embrassons-nous Folleville, tous les peuples sont égaux. Du point de vue de la formation sociale et de l'explosion radicale qui produit la fermentation qui conduit au communisme, tous les peuples ne sont pas égaux. Et Marx dit, en Europe, avec Engels, il y a des peuples qui ont toujours été du côté de la révolution et il y a des peuples qui ont toujours été du côté de la contre-révolution. Il prend l'exemple des Basques, il prend l'exemple des Corses, il prend l'exemple des Bretons, il prend l'exemple des Ukrainiens, il prend l'exemple des Croates, qui sont toujours du côté de la contre-révolution. Pourquoi? Parce que historiquement, il n'y a jamais eu passage à un étatisme classique qui aurait unifié la société dans une intentionnalité historique telle que, dans le cadre d'un renversement dialectique des luttes de classe, ça aurait pu produire l'incendie social. Et on le revoit dans toute l'histoire radicale du prolétariat européen, les conseils ouvriers de Budapest, c'est la Hongrie. C'est un peuple historique. Et ça n'a rien à voir, comme tous les couillons gauchistes l'imaginent, à un truc racial. Les Hongrois ne sont pas des Indo-Européens. Les Hongrois sont des Magyars. C'est une population qui s'apparente au segment ouralo-altaïque. Simplement, ils sont intégrés dans un développement européen christique, radical, révolutionnaire. Les Kurdes sont Indo-Européens. Mais ils se sont convertis à l'islam. Les Kurdes n'auront jamais de substance révolutionnaire. Le Rojava, c'est l'autogestion de la territorialité misérable d'un territoire ethnico-religieux. Il n'y aura jamais le manifeste communiste chez les Kurdes du Rojava, même si toute une série de fadas libertaires se sont imaginés un Rojava libertaire. Donc, la formation sociale, c'est la structure historique de longue durée par laquelle se pose une intentionnalité historique qui produit un État, puis qui produit un anti-État. C'est parce qu'il y a eu un État qui s'est formé historiquement chez les Hongrois, chez les Italiens, chez les Espagnols, chez les Français, chez les Allemands, que là est la quintessence révolutionnaire, dit Engels dans la Gazette Rhénane. Elle est là, la quintessence révolutionnaire. Donc il y a des continents, il y a des continents comme l'Asie, comme l'Afrique et l'Orient, qui se sont enfermés dans un immobilisme reproductif, coranique, bouddhiste, shintoïste, qui est incapable d'accéder à la révolution sociale pour l'abolition du salariat. On a commencé à parler de communisme radical, ce qui n'a rien à voir avec le collectivisme territorial du despotisme oriental, quand effectivement la canonnière étatique occidentale a été sur ces territoires-là, et que les bouquins, les expériences, les radicalités européennes ont commencé à y arriver. Il y a eu des petits groupes au Japon, il y a eu des petits groupes en Chine, il y a eu des expériences historiques, parce que le manifeste communiste, le spectre qui hante l'Europe, a pu commencer à hanter le monde par la diffusion de ce substrat historique radical, du logos grec radical qui aboutit au manifeste communiste maximaliste. Donc, aux États-Unis, le problème de l'immigration, il n'est pas vital comme en Europe. Parce que la classe ouvrière américaine, dans son historicité, est déconnectée de la substance historique de longue durée du manifeste communiste. Et si un jour la révolution sociale se déclenche, s'étend là-bas, c'est d'abord parce qu'elle aura lieu sur le territoire de son épicentre, la belle France, dit Engels, le lieu majeur, l'avant-garde mondiale du prolétariat dans toute sa sédimentation historique. La France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et c'est une hiérarchie qui n'a rien à voir avec l'ethnie ou avec la race. Il faut vraiment être très con pour pas comprendre ce qu'explique Marx Engels à la suite de Hegel. C'est lié à la formation sociale de longue durée. C'est lié à la formation sociale de longue durée. Et quand aujourd'hui, vous avez à la Gaîté Lyrique des migrants mineurs majeurs qui arrivent de l'Afrique subsaharienne, qui sont du Kurdistan ou d'ailleurs, ils sont dans une temporalité qui est antérieure à 1848 et au manifeste communiste. Et ils sont dans un rapport à la femme, ils sont dans un rapport à l'histoire, ils sont dans un rapport à la substance subversive qui les place d'emblée dans un autre monde que celui de la substance révolutionnaire qui construisit le manifeste communiste, la rage de mai 68 et le mouvement des Gilets jaunes. Donc il faut comprendre qu'aux États-Unis, l'immigrationnisme n'est pas un problème majeur, même si c'est un problème, alors que en Europe, la réalité de la lutte de classe qui doit être remplacée par la clientèle immigrée de la reproduction servile de la marchandise éternelle est là vitale. Donc, la restructuration américaine avec le retour à la valeur d'usage, elle a aux États-Unis absolument pas besoin, compte tenu de l'histoire américaine, de faire de l'immigrationnisme une priorité vitale première. Ça peut être une priorité secondaire, tertiaire à un moment donné, mais c'est pas vital et c'est pas central. C'est pas central. Pour ça que Marx n'a pas dit, on remplace un type qui coûte cher par trois mecs qui coûtent pas cher. Il a bien dit, un Yankee par trois Chinois. Parce qu'il a, il a pointé du doigt l'orientalité du village immobile. Et derrière le village chinois, on a le village arabe, on a le village africain, on a le village de tous les Orients possibles, qui n'a jamais pu arriver à la conscience révolutionnaire de l'abolition du salariat et de l'argent. Et pas simplement parce que l'industrialisation était plus tardive, puisque déjà dans la phase paysanne, il y avait en Europe cette radicalité christique de l'abolition de l'argent. Donc l'industrialisation européenne a fait muter la radicalité européenne paysanne en radicalité ouvrière maximaliste, mais il y avait déjà une radicalité ouvrière avant l'industrialisation, dans le tumulte paysan décommunal et dans la réalité offensive des luttes de classe de la décomposition féodale. En Orient, on a une propriété foncière collective, mais qui n'a rien à voir avec le communisme. C'est la lourde pesanteur immobile de la réitération sans fin. Donc avant même l'industrialisation, les populations du village oriental étaient cadenassées, l'industrialisation les a fait passer d'un cadenassage à un autre cadenassage, mais il n'y a pas la sève radicale du logos européen, christique, des insurrections paysannes, du tocsin. L'Église comme lieu central d'insurrection contre le haut clergé. Où est-ce qu'on se réunit au Moyen-Âge quand il y a une émeute? C'est dans l'Église en faisant sonner les cloches du tocsin insurrectionnel. Les Jacques, les croquants, les pathos, c'est toujours le même mouvement. Donc, faut comprendre cette réalité-là, et c'est ce qui fait que l'immigrationnisme peut s'arrêter aux États-Unis parce qu'il n'y a pas un danger vital. En Europe, il ne peut pas s'arrêter. C'est vital. Il faut que sur les 10 ans et les 20 ans qui viennent, les 500 000 immigrés qui chaque année rentrent en France transforme la démographie de telle sorte que dans l'usine globale de la contre-révolution de la valeur d'échange qui se veut éternelle, toutes les populations soient arraisonnées dans un clientélisme d'immobilité, de trafic, de salariat docile, mais surtout pas de compréhension révolutionnaire de l'abolition du salariat. Donc c'est ça qui permet de comprendre la différence de traitement du problème migratoire du point de vue de l'État transatlantique généralisé entre là-bas et ici.
Et entre là-bas et ici, ici donc en Europe et en l'occurrence en France, où il y a cette radicalité des profondeurs, cette longue histoire d'insurrection, il y a justement une nécessité d'avoir cette immigration. Alors le temps un de l'immigration, il est connu de tous, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire qu'il y a un intérêt économique au sortir de la domination réelle supérieure après 68, Nixon 71, on va avoir 75 la loi Veil, regroupement familial. Il y a Bouygues et tout le grand patronat qui appelle, qui veut des immigrés. Et donc pour bloquer toute contestation sociale, ben, l'immanence de l'État invisible va faire que on va créer une société, pas une société, on va créer une structure qui va faire culpabiliser les gens qui pointeraient cette immigration et qui pointeraient ce côté social, et on va avoir la naissance de une structure comme SOS Racisme. Il va, entre autres, elle, mais c'est toute une idéologie qui va faire culpabiliser les gens à pouvoir désigner ce côté du temps un migratoire. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas j'ajoute Bouygues, Peugeot, plus j'ajoute SOS Racisme, plus j'ajoute des médias, et tout ça ferait quelque chose qui ferait que on peut pas trop parler d'immigration, et ça serait ce que c'est. La réalité, c'est toujours l'État invisible, c'est qu'il y a une unité, un tout qui fait un tout et qui a une nécessité et de Bouygues et de et c'est ça l'immanence, c'est le fait qu'il y a plein de choses qui paraissent différentes mais qui structurellement sont configurées en profondeur par cet état invisible qui est la dialectique des forces productives aliénées par la valeur d'échange. Donc bon, le terrain il est connu et on a ce temps deux, et ça rejoint ce qui vient d'être dit sur cette spécificité de radicalité européenne et notamment française, c'est que il y a cette migration, cette immigration qui veut faire migrer cette radicalité, qui veut l'écarter, et il y a ce temps deux, et ça aussi, c'est pas, il y a des gens qui organisent l'immigration, mais c'est toujours les nécessités de l'État invisible qui fait que dans ce temps deux, il y a une nécessité de préparer les temps à venir, il y a un instinct de cet État invisible du capital de préparer les conflits sociaux dans l'endroit le plus révolutionnaire en potentialité, qu'est le territoire français, et donc de préparer, et on l'a déjà dit, je le redis, on le redira, la garde mobile, le grand conflit social, les grands conflits sociaux à venir. Donc c'est vrai que en Europe et en France, il y a cette spécificité de cette radicalité que l'État invisible anticipe de façon immanente.
C'est pour ça que toutes les associations gauchardes de l'État invisible et de l'État profond adorent les subsahariens faux mineurs de la gaieté lyrique, même les criminels algériens qu'on ne peut pas balancer, mais ils se foutent royalement de Sansal. Sansal, qui n'est pas radical, mais il est trop français, d'une certaine, il est trop francisé. Quand on est quelqu'un comme Sansal, on peut avoir un petit-fils ou un arrière-petit-fils qui ouvre d'autres livres que les livres de Sansal, comme par exemple les manifestes communistes. Et l'État profond transatlantique américain en France laisse allègrement croupir Sansal en prison, par-delà la géopolitique immédiate avec le Maroc, etc. Mais derrière tout ça, il y a ce qu'on exprime là sur la détestation de la radicalité, le Christ, etc., tout ce que vous avez dit tout à l'heure.
La domination réelle supérieure qui a créé l'usine globale totale a créé la haine totale de l'histoire française. La France a la plus grande histoire du monde. et elle a la plus grande histoire d'Europe. C'est ce que dit Engels. Quelle est la part de l'Algérie dans l'histoire mondiale? Tout le monde se marre. Quelle est la part de l'histoire française dans l'histoire mondiale? De la chanson de Roland à Baudelaire, en passant par Racine, en passant par Berlioz. C'est ça que dit Engels. Et c'est parce qu'il y a cette gigantesque histoire classique, cet esthétisme français, cet érotisme français, cette cuisine française, qui a au bout, la révolution, la vraie révolution. Pas la révolution des flics trotskistes qui applaudissent les montagnards, qui bousillent les sans-culottes. La vraie révolution communiste de la commune, que détestent les gauchistes trotskistes et même les libertaires. Parce que les gauchistes trotskistes, ils sont des kronstadtistes, c'est des fusilleurs du prolétariat éternel, c'est des galifets rouges éternels. Et les libertaires, c'est des ministres de la CNT éternels. Si je suis trotskiste et si je suis libertaire, ma fonction historique, c'est un jour de flinguer le prolétariat. Je le flingue comme à Barcelone ou je le flingue comme à Kronstadt. Mais la gauche du capital, l'extrême gauche du capital, c'est les sales flics extrémistes du capital. Donc ces gens-là, ils détestent la grande histoire française parce qu'au bout de la grande histoire française, il y a le retournement dialectique révolutionnaire du prolétariat combattant contre l'État, contre le salariat et contre toutes les cliques capitalistes qui dit le gauchisme du capital, trotskiste et libertaire, c'est la merde du capital, c'est l'imposture suprême du capital. Faut comprendre cette connexion dialectique. La haine de l'histoire classique est la haine de l'histoire classique parce que de Balzac à Marx, il y a une même unité historique par le renversement dialectique. Donc il y a cette haine-là. Et ce qui est très intéressant, c'est le meurtre de Crépol avec le bouquin des sales flics médiatiques qui nous explique que finalement Crépol, c'est pas ce qu'on nous a dit, etc. Parce que Crépol marque une date dans la frontière de classe. Crépol, c'est une date dans la frontière de classe. L'homme montre la richesse de son comportement historique tel qu'il peut déboucher sur la révolution sociale par son rapport à la femme. La racaille qui est arrivée à Crépol, dans un bal de prolo français, elle vient dans un bal de prolo français. Parce qu'il n'y a pas de balles dans les zones tribales de banlieue. Il n'y a pas de balles. La femme ne danse pas. Il n'y a pas de balles dans ces pays-là. Il n'y a pas de balles dans ces quartiers-là. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est aller emmerder ceux qui ont des balles. Mais derrière ce truc-là, par-delà le problème de la racaille, de la délinquance, on a toute la formation sociale historique de ce que dit Marx dans les manuscrits de 44. La révolution sociale est un acte générique d'émancipation érotique et historique. L'homme révolutionnaire de la Commune de Paris, il dit, dans une gigantesque trajectoire, ce qui va conduire à la Commune de Berlin, ce qui conduit à la rage sauvage de 1968, son rapport érotique à la femme. Le communisme est un érotisme. C'est un érotisme de l'homme à la femme et de la femme à l'homme qui veut abolir les conditions initiales de la servitude. À Crépol, les types qui organisaient leur bal lisaient peut-être pas le manifeste communiste. Mais dans le retour des Gilets jaunes, il y aura une sève radicale qui passera par ce village-là. Elle passera pas par la banlieue tribaliste du bled dont j'ai oublié le nom et qui est un département prioritaire dans lequel la municipalité a dépensé des millions et des millions prioritaires parce que la politique de la ville du capital, c'est depuis des années et des années, des centaines et des centaines de millions, puis des milliards, dans des zones privilégiées. Parce qu'on le redira jamais assez, le département le plus riche de France, c'est la Seine-Saint-Denis. Entre les allocations de l'État profond qui passent à l'État visible, des milliards et des milliards, plus l'argent du trafic. C'est-à-dire que si j'additionne l'argent du trafic plus l'argent de la politique de la ville, je suis à des années-lumière de ce qui se passe dans la Creuse, en Ardèche ou en Aveyron. Donc les quartiers privilégiés du capital sont les quartiers de l'immigration. Parce que comme l'a dit Maurice, c'est les quartiers qui préparent la garde mobile. Et qui préparent la garde mobile parce que venant d'un continent immobile, du village oriental, qui ignore la radicalité subversive de l'abolition du salariat, quand la grève radicale va surgir avec le retour des gilets jaunes, on aura un prolétariat qui fera revivre son histoire, et on aura des gens qui ignorent cette histoire et qui ne sont même pas capables de la transmuter en eux. Et ça, on le sait très bien, puisque quand on a des camarades originaires d'Afrique ou d'Afrique du Nord, et que ces camarades découvrent la perspective communiste, ils la découvrent en abolissant le donné initial. Le donné initial dans lequel la gauche du capital veut les enfermer. C'est la France nouvelle. La France nouvelle, c'est surtout tu ne touches pas à la culture française parce qu'elle est pourrie. Et oui, elle est pourrie, parce que si la grande culture française, tu la touches, et puis que tu l'aimes et que tu la renverses dialectiquement, tu passes de la Commune de Paris à mai 68, tu abolis ta religiosité servile, tu abolis ton comportement tribaliste et ton rapport à l'argent, et tu deviens communiste, c'est pas possible. Donc, faut comprendre tous ces enjeux, c'est des enjeux de perspective historique, c'est des enjeux stratégiques, et on en revient à la prévision. C'est pas par hasard si Marx a posé le problème du remplacement dans le capital, il l'a posé en termes de travail, en termes de remplacement travailliste. Mais on a très très bien compris que, et on l'a dit dans la dernière émission, que dans le champ de l'usine globale, l'étape supérieure de l'usine globale, si on comprend bien la critique sur Malthus et la totalité de la totalité comme flux de population, dans un premier temps, on faisait venir des gens pour travailler. Et dans un deuxième temps, on les fait venir simplement pour remplacer. Et ils deviennent des allocataires, même s'ils ne travaillent pas. Parce que dans l'usine globale supérieure, l'écrasement démographique du prolétariat combattant doit créer cette France nouvelle, où le débat, c'est plus la beauté de la cochonaille, la grandeur du vin, la sensualité des femmes, la beauté des bals et des musiques. Le problème, c'est le voile. Marx marrerait. Hein. L'enjeu politique, c'est plus l'abolition du salariat, c'est de pouvoir porter son voile à la piscine et sur les plages. Vous voyez la régression culturelle, la régression culturelle contre-révolutionnaire. Et là, tout est là. Et si c'est aussi dense, aussi concentré en Europe, c'est parce que précisément, comme Marx et Engels nous l'ont toujours dit, quelle que soit la décennie, quel que soit le siècle, compte tenu de l'histoire objective des formations sociales et de la crise de la valeur d'échange, l'impossible restructuration supérieure du capital commencera en Europe dans sa formation sociale révolutionnaire. C'est en Europe que commencera la révolution communiste, c'est en Europe que surgira le prolétariat révolutionnaire, à Paris, à Berlin, à Milan, à Madrid. Et dans tous les territoires historiques où précisément l'histoire du prolétariat ouvrier, reprenant la longue histoire christique des insurrections paysannes contre l'argent, a fait jaillir le manifeste communiste et la nécessité radicale d'abolir l'État, le salariat, la marchandise, toutes les politiques et toutes les économies. Et là, on retrouve ce qu'on a dit au début sur la méthode. Pourquoi notre méthode, entre guillemets, a cette capacité prévisionnelle dans toute la géopolitique de la valeur d'échange d'aller si vite, si bien, si assurément à la compréhension des vrais enjeux? Parce que nous, on n'est pas pollués par le politisme. On sait que tous les clans politiques sont pourris. On sait que tous les partis sont pourris. On sait que tous les syndicats sont pourris. À bas tous les embrigadements du capital. Donc nous, on n'a pas de hier. On n'a pas de hier. Que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur Gaza, que ce soit sur l'Amérique, que ce soit partout ailleurs, à bas les luttes de libération nationale, à bas les luttes politiques, à bas les luttes syndicales, maximalisme, intransigeance, invariance communiste, à bas toutes les cliques politiques, l'auto-émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même. Quand on a ça, on est blindé. On a l'assurance méthodologique de dire le vrai, de dire le vrai. Comme on le dit depuis des décennies et des décennies, et comme Marx et Engels avaient prévu dans le sixième chapitre, dans l'introduction de 1857, dans le Capital et les Grundrisse, tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que la géopolitique de la valeur d'échange qui est rentrée dans son procès de caducité, ça a été écrit en 1868. Depuis 1868, tout ce qui se passe aujourd'hui a été cadré, mis en perspective et analysé. Donc, quand on dit dans la préparation de cette émission en bandeau, bien travaillé vieille taupe, mais oui, bien travaillé vieille taupe. Parce que on a parlé de Clovis, on a parlé de Saint-Louis, on a parlé de Philippe le Bel, on a parlé de Louis XV, de la Troisième République. La vieille taupe, en sous-jacence, elle a commencé à travailler depuis le néolithique. Et puis, avec la révolution capitaliste des cités du médiéval du XIIIe siècle, la vieille taupe a accéléré son creusement. Et depuis, elle n'arrête pas d'accélérer son creusement. Et nous vivons aujourd'hui une transmutation d'époque. La crise de l'État transatlantique, telle qu'on l'a positionnée autour des notes sur Wagner, valeur d'usage, valeur d'échange, avec tout le délire, Trump, l'Europe, l'Ukraine, Gaza, c'est le signe. En 2050, les projections démographiques nous disent que la nouvelle France sera réalisée. On aura en France, une démographie majoritairement apparentée à l'immobilité contre-révolutionnaire du village oriental. Mais dans le même temps, on aura accéléré cette réalité objective du procès de caducité et on aura la rencontre de tous les phénomènes en même temps, avec ou Rapallo réalisé, ou le contre-Rapallo réalisé, mais une déliquescence complète de la formation sociale qui fait que les gilets jaunes, sous une nouvelle forme, vont revenir, sous une forme encore plus radicale, sous une forme encore plus explosive. Et là, on sera non plus à bien travailler vieille taupe, mais vieille taupe, nous arrivons à l'étape ultime, l'étape où enfin le capital produit son auto-invalidation.